Hervé Claude, Jean-Claude Narcy, faites place, ténor du journalisme. J'arrive.
Refusez les potins et ragots.
Ça vous ennuie si je vomis?
Bien manger, c'est important.
À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
Vous êtes en train d'uriner sur ma voiture.
Absolument. Et quand même, est-ce que je peux vous demander pourquoi?
Parce que je pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul.
Bonjour.
Salut.
Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, dans le Pop Cruise, votre rendez-vous mensuel qui vous parle de pop culture.
Exactement. Oui.
Aujourd'hui, je suis entouré de Pépé, directement à ma gauche.
Bien le bonjour.
Ça va,
le rire est magnifique.
Ça n'avait pas si long, alors j'attendais.
De plus en plus courtois.
Ouais, okay. Ça va très très bien, en pleine forme.
Mon cul, tu viens de chercher un mouchoir pendant deux minutes,
c'est clair.
Oui, non, ouais, j'avais besoin de me moucher. Bon, bah, ça va peut-être renifler un peu.
J'irai peut-être chercher un mouchoir. C'était trop drôle pendant le générique.
Mon mouchoir, mon mouchoir. Mais non, ça va aller. Je ne suis pas malade, je suis en pleine forme.
Ok, tu ne nous transmets pas ta merde.
Ouais, c'est clair.
Bah, du coup, j'ai commencé en sens horaire, donc on va continuer comme ça. Chacha, comment ça va?
Bah, ça va très bien. Moi, tranquille, je ressors d'une semaine de vacances, je bosse 5 jours, je repars pendant 10 jours de vacances.
Très bien.
C'est pas mal. Ouais.
Ok.
Ouais, je suis bien.
Toujours en vacances, quoi.
Toujours en vacances.
Et un autre qui est toujours en vacances, puisqu'il est prof et qui m'a volé ma bonnette orange en plus. Angelo.
Salut. Eh bah pareil, je suis en vacances, ça va très bien. J'ai pas chanté les 10 commandements, même si j'ai beaucoup envie.
Et il porte son beau maillot Adidas de l'équipe de France.
Voilà. Non. Ah bah non, c'est juste un maillot rétro, mais c'est pas l'équipe de France.
Ok, pardon.
Il est juste bleu,
blanc, c'est juste bleu, c'est juste tricolore, mais c'est pas là. Ouais.
Et il porte son maillot Adidas de l'équipe de mangeage de burger.
Exactement.
C'est donc Pedro, comment ça va?
Ça va, j'allais dire très bien. Ben non, ça va pas très bien, parce que j'étais tout fatigué après mon week-end et que je suis de nouveau malade. Ça y est, je pense que c'est officiel. J'ai passé plus de jours malade que pas malade cette année et c'est la première fois depuis très longtemps.
Ah bah, il n'y a pas beaucoup d'épisodes où tu dis pas que t'es malade.
C'est
pépé, en fait.
C'est pour ça qu'on demandait toujours des nouvelles du médecin, en fait.
J'ai appris à vivre malade, tu sais, moi, Pépé. Je n'arrête
moi,
plus.
Moi, quand je suis malade, je me plains. Je suis là.
Je passerai ma vie à me plaindre. Non, sinon, ça va. Merci.
Très bien.
Et toi, Mollusque,
et toi, comment vas-tu?
Ouais, ça va. J'ai fini de préparer tout le podcast aujourd'hui, comme un gros gland. Donc voilà, je suis à la ramasse, mais on va bien voir ce que ça va donner. Voilà.
Classique.
Et donc, aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de moustaches en ce beau mois de novembre.
Oui, la moustache. Oui,
exactement. Puisque le mois de novembre est le mois du Movember.
Quelqu'un la porte ici? Ouais,
oui, Charlie.
Ouais, mais pas que la moustache.
Ouais, pas que la moustache, quoi.
Ouais. Personne n'a fait une vraie belle moustache.
Non,
ma déception, je m'attendais à ce que Pedro arrive dernier avec sa moustache pendant
et
tout
ouais,
le monde.
Non, pas, cela m'a été interdit.
Ah bon?
Ah oui,
c'est vrai.
Par une aficionados de la pas moustache.
De moustache. Ah, okay. Par la police de la moustache.
Okay. Ça m'étonne pas.
m'a dit sinon je tente aussi moi des trucs capillaires bizarres. Je dis non, surtout pas.
Ok.
Ah, ok.
Bah capillaire, c'est pas la même chose. Parce que tu lui as pas interdit de se faire une moustache. Là, je sais.
Elle a des poils. Elle a des poils de visage.
Allez, ça y est, ça devient bizarre. C'est de ma faute.
Voilà.
Eh bien, je vous propose donc de vous introduire le thème, à moins que vous ayez autre chose à dire sur le.
On va dire que de la merde.
J'ai toujours envie de chanter les 10 commandements, mais je ne ferai pas.
Allez,
tu fais ça avant la fin. C'est pas possible.
Allez, vas-y.
Ok. C'est parti pour l'intro. Donc, à poil souple ou à poil dur, des artistes, mais pas tous, en ont fait leur marque de fabrique. D'autres hommes, mais pas tous, l'arborent fièrement en symbole de virilité, comme pour dire « Voyez donc, ma belle trique ». Et aussi certaines femmes, mais pas toutes, fort heureusement, même si ça n'a rien de dramatique. Elle est la raison pour laquelle, autour de cette table, nous préférons à Derrick ce cher Hercule Poirot. Il est plus chic et moins nazi, mais là n'est pas la question. Ça reportez-vous plutôt à l'épisode 9 de la saison 2.
Exactement.
Elle peut être le départ de l'intrigue de votre film préféré, comme dans La destinée insolite de John Travolta.
Oh putain, c'est quoi ça?
Je vous explique après.
Okay.
D'accord.
Parfois, pas toujours, elle n'est là que pour nous rendre un personnage plus sympathique. Comment ne pas penser à Borat, Thomas Sullivan dans Magnum, Sam Elliott dans The Big Lebowski, ou les films de Charlie Chaplin? Pas tous pour le dernier exemple. D'autres fois, elle vient gâcher la fête. Le Superman d'Henry Cavill s'en souvient. Ou, à contrario, elle manque terriblement. Pourquoi donc, encore lui, Superman Red Son, ce Superman alternatif atterré en Union soviétique, ne la porte-t-il pas, tel l'étendard de son pays d'adoption? Certaines, mais pas toutes, sont de plastique, ou pire, de plastoc. Mais quand elles ne piquent... mais elles piquent quand elles ne sont pas en toc, et elles peuvent être parcourues de nerveux tics. Oh, est-ce donc là la raison pour laquelle nos chères dulcinées, enfin pas toutes, nous disent sur un ton mi-antipathique, mi-sarcastique « Si tu fais ça, je te quitte !» Mais messieurs, voici enfin le beau mois de novembre, où tout est permis. Laissons parler notre originalité telle une belle prose. Après tout, c'est pour la bonne cause. Nos auditeurs, tous cette fois, puisque c'est dans le titre de l'épisode, une blague méta de temps en temps ne fait de mal à personne, l'auront compris. Aujourd'hui, dans le Pop Cruise, il sera question des moustaches. À vrai dire, et en conformité avec le concept de l'émission, qui veut que nous ne traitions que de quatre œuvres, pas de toutes, hélas.
Hélas.
Peut-être certains parmi nous ont un peu triché, peut-être.
C'est possible qu'il y ait un peu plus que 4 œuvres.
On dira pas qui.
John Travolta, tu vas nous l'expliquer tout de suite quand même. Parce que
John Travolta, c'est un film italien. C'est un film très sérieux, hein, mais du coup, dans le film, il y a une actrice porno italienne. Mais du coup, le départ d'intrigue du film, c'est qu'il y a un mec qui bosse dans une cuisine d'un grand hôtel. Et un jour, pour déconner, un de ses collègues va dessiner une moustache sur un portrait de John Travolta. Et il se rend compte qu'il ressemble vachement, en fait, une fois qu'il a la moustache, à John Travolta. Donc voilà, il part séduire la DJ du coin en se faisant passer pour le John Travolta. Et ça s'appelle John Travolto.
Très, très bon, ça.
Excellent.
C'est l'air du grand film.
Ouais, c'est du grand nawak.
Le titre du film, c'est...
C'est
tu l'as peut-être pas là.
La destinée insolite de John Travolta. Et le titre original, je l'ai plus.
D'accord, ouais, c'est déjà très bien. Bon,
avec ça,
c'est
déjà pas mal.
Merci.
Eh bien, puisqu'on a bien introduit le sujet, est-ce que quelqu'un veut intervenir sur la moustache avant qu'on attaque le quiz ?
Qui l'a déjà porté ici, les gars ?
Jamais.
On se met déjà
de façon sérieuse ?
De façon sérieuse, non.
On me l'a formellement interdit tout le temps.
Donc, à partir de là, j'ai essayé 3 semaines. J'avais une gueule de garçon bouché, je vous jure, il me manquait que le crayon rouge au-dessus de l'oreille.
Ah oui ! Ah non, mais oui, j'ai essayé tout un week-end, un long week-end, et j'avais bien apprécié. Mais après, j'ai pas assumé. J'ai pas osé retourner au boulot avec et je l'ai enlevé.
Ah, j'ai retrouvé des photos. Mon premier essai, en fait, c'était pour l'anniversaire de votre cher et tendre, monsieur Pépé.
D'accord.
Toi, la meuf.
Oui, tout à fait. Oui, il y a 5 ans de cela.
Okay. Ouh là là.
J'étais déguisé en Ernest Hemingway.
Ah, exact.
Moustache fine, alors.
Oui. Moustache fine.
C'est vrai.
Tout à fait.
Non, moi, à part pour des déguisements, ça m'est jamais trop arrivé, encore pas souvent déjà. Donc...
Mais dans les garçons bouchés, il a pas de moustache, mec.
Le garçon bouché, non. Non, mais j'avais l'air d'un garçon bouché, ouais. Vraiment, tu sais, le boucher charcutier de ton village.
Moi, c'est François Gilazzaro, direct.
Bah oui, j'imagine. J'imagine.
Eh bien, bah voilà, puisqu'on a fait un petit tour, on va attaquer le quiz que Chacha nous a prévu.
Oui, go oui.
Allez.
Flétri au contact du vent, sous mes poils gris, je sens le parmesan.
Stéphanie de Monaco.
Perdu, c'est ma bite.
Ah, toujours aussi sympathique. Et d'ailleurs, porte-t-elle une moustache? On ne sait pas.
On ne sait pas.
Qui c'est, Stéphanie de Monaco?
Bah oui, parce qu'il dit sous mes poils gris, donc oui, évidemment, porte une moustache.
Eh ben, messieurs, prenez une ardoise. Un petit crayon.
Ah, merde, c'est là. C'est le retour de l'ardoise. Ouais,
c'est le retour des Wade et Véléda et du.
Voilà.
Donc c'est encore chacun sa gueule.
C'est encore pour votre pomme cette fois-ci.
Merci.
Et tout simplement, je vais vous envoyer. Vous aurez 10 sons et il faudra trouver le nom du personnage qui est relié à ce son, qui est bien sûr qui porte normalement fièrement une moustache, obligatoirement. Allez. Alors bien sûr, je vous demande le nom du personnage en entier et c'est bien le nom du personnage, pas de l'acteur ou autre ou de la voix ou je sais pas.
Le nom du personnage.
Le nom du
moustache.
Personnage, d'accord.
Ouais. Oh putain, okay.
Ça va être raide ton truc.
Ça va être pas facile.
S'il y a que la moitié, peut-être que je vous mettrai un petit 0,5 point au lieu d'un point.
C'est mignon
ouais,
ça.
Quoi, mais on verra.
Ça c'est gentil ça.
Allez, tu vas être sympa.
Ouais, c'est ça. Attention, la première.
Oh bah.
Ah putain, mais son nom, je l'ai plus. Moi.
Ah mais non. Ah merde, faut le nom de...
Ah ouais, faut le nom du perso.
Personnage, ah merde.
Ouais.
Ah merde, bah oui, j'ai la série, mais j'ai pas le...
On a dû un point entier pour Pedro, parce que c'est Thomas Magnum.
Il s'appelle pas Magnum.
Ah, ouais. J'avais...
Ouais, donc ça marche pas.
Thomas Magnum, bon, c'est un 0,5 pour Mollusque.
Bon, j'ai 0.
Bah, c'est Thomas Sullivan.
Non, c'est Thomas Magnum.
Il s'appelle vraiment Magnum.
Ouais, pour moi, c'est.
Il s'appelle Thomas Magnum.
Et t'as un petit 0,5.
Ah, du coup, j'ai un petit 0,5. Ouais.
Mais je me demande si c'est pas Thomas Sullivan.
Ah, mais alors,
Magnum,
si j'avais mis Magnum, j'avais 0,5.
Ah, bah oui.
Ah, putain, j'ai effacé en me disant ça sert à rien. Putain, la baisse.
Je veux pas te dire de bêtises, on va le retrouver tout à l'heure dans ma.
Ouais, on verra.
Bon, après. Charlie, t'as dû vérifier, tu sais ce que tu dis.
C'est ça. Oui, j'ai vérifié à fond.
C'est totalement à peu près.
Totalement.
Attention, deuxième extrait, messieurs.
Bon, bah, je suis mal barré.
Je viens d'agresser tous mes amis et mes voisins parce qu'ils voulaient m'aider. Je voudrais me faire interner.
Très bien. Ah, je vous conduis à votre chambre ou vous préférez y être conduit en traînant les pieds et en hurlant?
Oh, en traînant les pieds et en hurlant.
Comme vous voulez. Non.
J'ai pas le nom.
Attendez.
J'ai pas le nom. Ah, Flanders.
Eh ouais. Oh merde.
Jusque là c'est Ned Flanders.
Oh, je suis
Flanders.
Dégoûté.
Ah, j'avais
le prénom et le nom, mais
je suis vénère. Mais Flanders, il revenait pas.
C'était un petit 0,5 pp, mais
j'ai failli écrire.
Bien joué, Mollusque, pour le Ned Flanders.
C'est ça, bien sûr. Sur Sox, par contre,
le voisin.
Oh, mais en plus, ça, c'est une voix qu'on entend.
Ah, je l'avais ouais, pas du
souvent,
tout.
Donc, c'était pas évident. Pas facile.
Hein. Attention, la numéro 3.
Kazakhstan est la plus grande nation dans le monde. Les autres nations sont menées par des chochottes. Kazakhstan est le premier.
Le prénom.
Il n'y a pas de prénom, c'est Borat.
Ok, ah, okay,
c'est bon.
Vous avez tous le point pour Borat, monsieur.
Putain, j'aurais dû avoir un demi-point pour Magnum.
Je ne peux pas s'en remettre de son diplôme.
Au quatrième. Celui-ci, vous avez médium.
Hyper sûr.
Je sais que celui-ci est très dur.
Je suis pas hyper sûr.
Non.
Ah, il y a du Freddie Mercury, du Frank Zappa. Vous êtes pas du tout dans les bons thèmes.
Ah merde.
Je pense que personne là, tu l'as, t'as mis quoi, mon cher
dire
Angelo?
Freddie Mercury attends. Aussi, mais.
Et Hulk Hogan, bien joué, Angelo.
Oh, bah,
il a chanté.
Non, non, c'est sa musique d'entrée dans
ah, oui.
qui, à chaque
ah,
fois.
Parce que je me dis, de toute façon, même s'il a chanté, il a pas cette voix-là, c'est pas possible.
Non, oui, c'est clair.
Qui s'appelle en vrai Terry Eugène Bolea.
Bah, du coup, il a pas le point.
Bah si, il a mis Hulk Hogan.
Ce serait à nous des... Voilà, c'est chaud. Depuis tout à l'heure, ça me...
Mais quelle belle moustache. Quelle belle
ah
moustache.
Ah oui, quand même. Hulk Hogan, la moustache. Culte. La cinquième.
Ne me faites pas de mal.
Mais non. Nous allons seulement t'offrir un peu de soupe, c'est tout.
Oh.
C'est
attends,
tout.
C'est tout.
Ah, oh, c'est mon corps.
Je l'ai pas.
Roger Rabbit.
Ah, j'ai pensé
non, non,
à
non,
ça,
pas
mais.
Ça. La trompette, c'est le monsieur non. Angelo qui a la bonne réponse, c'est Astérix.
Allez
ah,
il se rattrape en ce
moment.
C'est la voix de Roger K. Non, c'est pas la voix de
alors,
Roger.
Je me rappelle plus qui fait la voix, je l'ai pas marqué.
Ouais,
en plus, comme un con, je l'ai pas
loin.
Marqué.
T'es pas loin.
Je plus. Je, on va pas dire de
je
bêtises.
Crois que c'est la voix de Roger Carrel.
Pour l'anecdote, je pars au parc Astérix demain.
Oh
coïncidence.
Petit enfoiré. Numéro 6.
N'essaie pas de m'en empêcher, mouche, et ça recommence. C'est fini. N'essaie pas de m'en empêcher cette fois-ci, mouche. N'essaie pas de m'en empêcher
putain,
cette fois-ci, mouche. Surtout, n'essaie pas de m'en empêcher cette fois-ci, mouche. Essaie de m'en empêcher. Mouche, t'as intérêt à remuer.
Ah non, t'as triché là. Ah, t'as triché, il a triché.
Mais il l'a pas.
Et il a triché.
Ah,
il
oh la honte, il l'a pas.
Attends,
fout,
en plus,
moi,
c'est
le
bien sûr,
le
mouche.
Capitaine Crochet. Et j'aurais même mis un 0,5 de plus pour ceux qui auraient dit Capitaine James Crochet.
Ah, c'est James, ah, ouais, okay.
Mais c'est joué. Capitaine Crochet
c'est,
qui est connu le nom
James
du personnage. Donc,
donc putain, Angelo, comment t'as pas trouvé
ça? Ah, Angelo l'a pas eu.
C'est bien, ça rattrape le Hulk
Hogan. Il a pas eu d'enfant, celui de la maté alien quand tu l'as essayé.
C'est pas faux.
C'est pas faux.
Numéro 7.
Oh, putain.
Ah. C'est peut-être...
Attendez la fin du son avant de montrer aussi, les gars.
Ah, je vais avoir pas mal.
Eh, c'était Hercule Poirot.
Allez oui
oh, merde, ils l'ont aussi.
Tout le monde l'a eu pour Hercule.
Oui, mais j'étais tellement pas sûr.
Tout le monde l'a eu.
Non, par rapport à ta
ouais,
chronique,
Hercule
ça fait mal
Poirot.
Au cul.
Ouais, surtout, je les ai tous vus.
Ouais. Ah, moi aussi, ouais.
Avec ma mère.
Avec
non,
père.
Je les ai pas vus avec ta mère, je te promets.
Non, mais moi, avec ma mère.
Et voilà, ça dérape.
Attention, en antépénutième.
Non, vous venez chez moi le jour où ma fille Connie se marie et vous offrez de me payer pour un meurtre. Un meurtre.
Et ce que je demande, c'est la justice.
Ça ne serait pas injustice. Votre fille est toujours vivante.
Ah merde.
Je vais les voir souffrir.
En tous les cas, c'est le chat qui ronronne.
Autant qu'elle souffre.
Mais ça ne me revient pas. Ah si, hop là.
Non, j'ai pas.
Oh, l'autre, attends. Il a triché. Il a regardé mon ardoise.
Mais elle est retournée, ton ardoise. Ouais. J'ai pas le prénom, par contre, ça me revient pas.
C'est Don Vito Corleone. D'ailleurs, c'est plutôt Vito Corleone.
Ouais,
pour
mais j'ai mis Don Corleone, ouais, ça va.
Ah oui, mais Don, c'est le.
Ah, ouais, bah regardez où est-ce qu'ils ont mis sinon, la lumière et l'accent aigu, lui.
Vous avez tous 0,5 hein, pour moi.
Allez.
Parce qu'ils ont mis que Corleone ou Don Corleone, mais je, Vito Corleone, en fait, vraiment.
Par honnêteté, je prends pas le point parce que j'ai copié. Hein.
Ah bah ok, bravo, bonus.
C'est honnête de ta part.
Avant-dernier.
Pour ce temps, ça, c'est plus, c'était Bonacera qui lui parlait, il avait aussi une moustache.
Putain, c'est qui ça?
Kendrick Lamar, il a pas de moustache.
Oh, je l'ai!
Ah, j'ai pas du tout, quoi.
Tu vas nous présenter quoi déjà tout à l'heure, Angelo?
Super Mario Land 2.
Et son pote, il s'appelle comment?
Luigi!
Son frère, Luigi?
Ouais. C'est Luigi.
Ah merde, ok.
C'est
la musique de Luigi's Mansion. Ok.
Ah mais oui.
Exact. Oh putain.
Et ça faisait vachement un truc de Snoop Dogg qui porte une moustache.
Ah putain. Vous avez pas fait attention le waouh. C'est vraiment le truc qui rappelle les.
Putain. Voilà. Putain, quel con. Je l'avais en plus. Je le connais, le thème
avec
de Luigi's
Mansion. Avec le remix, il fallait l'avoir.
Bah ouais, ouais.
Mais il est pas mal le remix.
C'était pas le dernier.
Il est plutôt cool.
Il reste un.
Je pense que je vais te le piquer le remix.
Oh, tu tapes Luigi Mansion, tu l'as sur YouTube. Hein.
Alors je vais faire ça. Faisons comme ça.
Si tu veux, je te l'envoie, mais tu peux le choper tout seul. Le dernier.
Allez.
Ce quai est strictement interdit aux civils.
J'en savais rien, je vous demande pardon. Si j'en vois un, je vous en informerai immédiatement. Apparemment, il y a comme une fiesta de la haute société dans la cour du fort. Comment se fait-il que deux hommes aussi remarquables que vous semblez l'être n'aient pas mérité une invitation?
Putain, j'ai pas
là pas du tout.
Vous savez que les gars, vous êtes tous à 4,5 avant celui-ci.
Merde.
Et Bolus qui va gagner avec son Jack Sparrow.
Ah, yeah.
Bravo, Bolus. On est tous les autres à 4,5, ouais.
Ah merde.
Putain, tout ça parce que bah, j'ai pas eu Magnum, Bolus. Putain.
Tu es à 5,5.
Attends, hé. Ouais. Hey. Là où je peux me taper aussi, c'est les Simpsons. Je suis pas sûr que vous soyez
non,
comme
à
moi à 34 saisons.
Non. Ouais. Mais Magnum, je l'avais. Et puis Luigi's Mansion, j'aurais
encore pu. J'ai quand même gagné.
Et ben voilà pour ce petit quiz, les gars.
Très bien,
c'était... clairement, je me suis dit, c'est bien la moustache.
C'est bien
mieux,
cool.
C'est de prendre des images de moustache et puis tu les fais deviner, mais bon.
Ah, ça s'appelle le podcast.
C'est pas très, ouais, pas très radiophonique tout ça. Merci beaucoup, hein. C'était un très bon quiz. Ouais.
C'était pas
un...
évident.
Je crois que c'est le quiz le plus short que t'as fait.
C'est vrai.
Wow. C'est vrai. On veut encore de la moustache.
Ouais.
Et bah maintenant qu'on
c'est
a fait...
C'est toi l'animation
oui, c'est bon, laisse-moi le temps de reprendre mes esprits. Maintenant que j'ai gagné, j'ai l'ivresse de la victoire.
Il était en train de se peigner la moustache.
Il était en pleine euphorie.
Et bah non, maintenant que j'ai gagné ce quiz, on va pouvoir passer aux chroniques, n'est-ce pas Pépé?
Ah oui, je suis prêt, je
et
suis
donc,
prêt.
Et donc, tu vas nous parler de chansons sur la moustache.
Oh moustache, oh moustache, oh moustache, big moustache, thick moustache, my moustache, your moustache, say the word moustache, oh moustache, oh moustache.
Oh moustache.
Et oui, en effet, j'ai décidé de faire un petit tour d'horizon des chansons à texte ayant pour thème la moustache. On va s'ambiancer.
C'est bien que t'as fait une grosse chanson à texte moustache. Contenant une moustache.
Des textes écrits par des moustaches.
Donc déjà, pour commencer ce petit tour d'horizon, moi tout de suite, moustache et chanson, j'ai pensé tout de suite au morceau Moustache de Philippe Catherine. Donc 12e morceau sur les 24 que contient l'album chef-d'œuvre sorti en 2010 et sobrement intitulé Philippe Catherine. Sur la pochette, comme sur une vieille photo de famille des années 80, il pose fièrement devant un fond bleu dégueulasse avec un sourire béat entouré de ses parents Jeanne et Pierre.
Normal.
Le ton est donné, ce sera une ode à la niaiserie et la médiocrité, et il le fait avec énormément de talent. Le titre le plus connu, donc, c'est bah, La Banane, je pense que vous connaissez tous.
Oui
Non mais laisse-moi. Mais bien d'autres perles, Bla Bla Bla, Des Bisous, et Moustache.
Vas-y, mets ta moustache.
On parle bien de chansons à texte.
Cet album est génial.
Ha ha ha.
Donc voilà, pendant tout le morceau, il va rigoler quand il y a la moustache, il va pleurer quand il n'y a plus la moustache, il va re-rigoler quand l'autre en face remet sa moustache. C'est débile, mais moi, ça me fait bien marrer. Mais je ne suis pas le seul, nous ne sommes pas les seuls, parce que ça vous fait peut-être marrer un petit peu cette bêtise. Aux États-Unis, dans l'émission Tonight Show de Jimmy Fallon, a été diffusé un extrait dans une courte pastille intitulée « Do not play this song ». Donc il plaisantait gentiment et sur cette chanson, il s'est un peu moqué.
Il ne joue pas cette chanson du coup, hein. Ça veut dire quand même penser qu'il fait ça.
Ouais, voilà, oui voilà, pour ceux qui comprennent vraiment pas l'anglais, do not play this song, ne jouez pas cette chanson. Et du coup voilà, il en parle vite fait, après il envoie la pub. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Suite à cette diffusion, Philippe Catherine a alors proposé de venir interpréter sa chanson en live. Et paf, ça a fait une séquence de télévision culte où Philippe Catherine et Jimmy Fallon chantent, ou plutôt se marrent sur scène devant plusieurs millions de téléspectateurs.
Je pensais que tu avais vu ça.
Il y avait vraiment toute une mise en scène avec des danseuses qui portaient des moustaches géantes en fait.
C'est incroyable ça.
Et allez voir ça, c'est très facile à trouver sur YouTube.
Le coup de pub que ça lui a fait.
Ouais, je pense que c'est un gros coup de pub. Mais en vrai, moi j'adore cet album, il est complètement con.
Il est génial. C'est sur celui-là où il y a la Reine d'Angleterre ?
Oui.
Incroyable ce morceau.
Mais on va pas parler de ça, on va rester sur des morceaux, sur la moustache. En effet, Philippe Catherine est loin d'être le premier à avoir composé une chanson glorifiant le port de la moustache. La plus vieille chanson que j'ai trouvée date de 1864 et a été écrite par Stephen Foster, considéré comme le père de la musique américaine, suite à ses compositions restées célèbres longtemps après sa mort. Il s'agit ici du morceau « If you've only got a moustache », désolé pour l'accent. Des interprétations de cette œuvre, il y en a à foison. La plus moderne est celle qu'on retrouve dans la comédie musicale de 2014, « A Million Ways to Die in the West », Albert à l'Ouest en français.
Ah, mais il est trop bien!
Avec Charlize Theron, Liam Neeson ou encore Neil Patrick Harris.
Ah ouais, quand même.
Alors, on a déjà entendu un extrait, c'était le jingle d'intro. Du coup, vous allez avoir droit à la version en français. Ce n'est pas une traduction littérale, c'est une adaptation, histoire d'avoir un truc qui rime. On conserve le côté bien macho, donc en gros, ça raconte que tu deviendrais un aimant à gonzesse si t'avais une grosse stache. Okay. Mais il y a un aspect misogyne qui est décuplé qui apparaît dans cette version en français. Écoutons ça.
On peut être banal, n'avoir rien de spécial, même sans avoir la classe, se taper bien mieux que des gars. On peut être anonyme, n'avoir pas un centime, et pas se faire que des grosses vaches, quand on a une moustache.
Oh la vache!
Oh la vache, c'est bien.
Quand on a une moustache.
Et donc ça, c'est que en français.
Okay.
C'est qui l'a repris, celle-ci?
Qui a fait l'adaptation, je ne sais pas, désolé, je ne sais pas qui l'a
c'est
adapté.
C'est un gros connard.
il a réadapté la chose de base.
Après, oui, ils ont cherché des rimes et ils ont dit ouais.
C'est ce qu'on appelle une licence poétique, Paulus, après tout.
Après, je pense que c'était un peu l'idée. L'idée de la chanson, c'était un peu ça, sauf qu'il n'y avait pas des mots aussi forts.
C'est un peu hardcore quand même.
Allez, quittons le Far West et revenons un peu dans notre douce France. Faisons un bond d'un siècle. Nous sommes désormais en 1967. Un beau gosse fait chavirer les cœurs depuis quelques années avec des chansons d'amour telles que La Belle Vie, Bye Bye Baby, La Pétanque ou l'incontournable Scooby-Doo-Bidou. C'est Sacha Distel. Il sort cette année-là un EP contenant le titre Les Moustaches. On est ici sur du très gros niveau de poésie. J'ai fait un montage pour vous offrir un condensé de la chanson et ainsi avoir la chute de la chanson en vous épargnant l'intégrale.
C'est gentil.
Mon frère en a une.
Oh putain.
Et même ma grand-mère n'en a pas.
On se demande de quoi il parle.
Pas même une petite, ni une toute petite. Non, 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 grand-mère n'en a pas.
Normalement, ça dure 3 minutes.
De moustache.
Voilà, c'est magnifique.
Moi, ça me choque plus que le morceau d'avant. Perso,
on n'est pas d'accord là.
Ah, c'est une chanson blagounette quoi.
Ouais, je trouve ça plus vulgaire que le morceau d'avant.
Allez, on continue sur de la chanson française avec un court extrait de Maria de Rossi qui, en 1976, chante son amour pour les moustachus.
Parce que j'aime la moustache, comme
Mais what the fuck, quoi.
Ça, ça fait un peu à la queue leu en plus.
À la queue leu. T'as envie de danser à la queue leu, mais en se tenant la moustache.
En se tenant la moustache, exactement. T'as l'air d'un méga con.
Donc oui, en effet, en France, on kiffe tellement la moustache qu'on a envie de le chanter à tous nos voisins d'Europe. On envoie donc en 2014 le groupe Twin Twin participer à l'Eurovision.
Oh, oui, putain.
Écoutez bien cet extrait. Désolé, un petit peu trop long, mais il le fallait. Écoutez bien.
Ah, c'est horrible ça, par contre. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir. J'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi je voulais une moustache.
Ouais, on a envoyé pire à l'Eurovision.
Mollusque enlève son casque et s'arrache les oreilles.
Oh la vache.
On a envoyé pire.
On a envoyé pire.
Attention. C'est vrai qu'il est trop long.
Ah, mais son, là.
Attends, il faut la fin, il faut la fin quand même.
T'es le gros, t'es que mon son en plus.
Moi j'aime bien la fin.
Là. Mais ça dure méga longtemps cet extrait en plus.
Et pourtant j'ai raccourci de ouf.
Une nation de lettrés. Voilà.
Avec cette prestation, la France finira bonne dernière du concours. Avec seulement 2 points. Oh. Merci à la Suède et à la Finlande d'avoir eu pitié.
Alors est-ce que l'Eurovision c'est sous-titré?
Non.
Ah bah oui, bah ils ont pas profité de la qualité des paroles. Ouais,
c'est vraiment que la musique.
C'est quelle année ça, Pépé?
2014. Il s'agit du pire classement français de l'Eurovision. Jamais la France n'avait été dernière. Il ne s'agit pourtant pas du pire score français. En 1966, elle n'avait obtenu qu'un seul point, mais n'était pas arrivée, dernière.
Donc il y a une équipe qui a fait zéro.
Oui, il y avait une équipe qui a fait zéro.
Ah, ça faisait envie de chanter. Ouais, allons, enfants.
Juste à titre de comparaison, l'Autriche, représentée par Conchita Wurst cette même année, gagnera l'édition 2014 en cumulant 290 points. Voilà.
Alors qu'elle n'avait pas de moustache.
Une belle barbe. Alors je ne sais pas si le chanteur de Twin Twin a réussi à se faire pousser une moustache depuis, mais sa carrière a elle complètement fané.
Bah alors, c'est bizarre ça.
Voilà, puisqu'on est sur l'Eurovision, parlons de la chanteuse israélienne Netta qui a gagné l'édition de 2018 avec son hymne féministe Toy, qualifié ainsi car dénonçant toute forme de harcèlement. Elle revient en 2021 dans une collab avec le groupe Little Big pour nous prendre un single. Le titre, je vous laisse deviner, c'est Moustache.
Ouais.
J'ai raccourci un petit peu. C'est pas ouf, mais.
Mais ça se laisse écouter. Samedi à 3h du matin, bien bourré quand même.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, on aime
Little
ou pas.
Big, ça s'écoute que bourré.
Oui, de toute façon.
Oui. On aime ou pas, il y a des petits moments que moi j'aime bien. Après, je vais pas réécouter ça en boucle. C'est quand même un clip avec 52 millions de vues sur YouTube.
Oh, putain,
et après, je vais pas les comptes sur.
Je crois que c'était la production de l'album.
Ce qui est sûr, c'est qu'on sort ici des clichés qui veulent que la moustache soit un symbole de virilité. Mais ça reste tout de même un attribut sexuel. Du coup, là, c'est des femmes qui portent la moustache et tout le monde a envie de se les faire. Okay. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Alors, on arrive au bout. Désolé de vous avoir défoncé les oreilles. On a quand même des chansons pas trop désagréables. Début 2022, le groupe Deluxe sort un album intitulé Moustache Gracias, avec une chanson du même nom écrite et composée en collaboration avec La Rue qui est à nous.
Oh, non.
Et,
ça se gâte.
Si, bah, moi, j'aime bien. Écoutez.
Vive la moustache. Ce petit coup de hache auquel on s'attache plus qu'on s'habitue.
C'est mieux que l'Eurovision.
Et... Vive la moustache.
Ah, je sais pas.
Et la reine des moustachus. Vive le culot et la moustache de Frida Kahlo. Okay. Moustache gracias.
Ah, et t'as Deluxe derrière, c'est forcément canon, hein.
Bah oui, du coup, déjà, bah, on est plutôt partagé sur la requête.
Ouais.
Moi, j'aime beaucoup, il y en a ici qui aiment pas trop.
Là, moi, j'aime bien les gens qui prennent des douches et qui marchent pas pieds nus, donc
c'est moi mon truc.
De toute façon, on a compris, cette année, Pépé, c'est nous deux contre les autres, hein, tous.
Nous deux contre le reste du monde.
De toute façon, ça va finir par une bagarre.
Bah, vous aimez, vous aimez la requête, on aime la musique, c'est comme
en
ça.
En tout cas, moi, c'est...
Allez, voilà. Moi, ça, c'est mon équipe, ça.
C'est, en tout cas, c'est l'une de mes préférées, de ce qu'on a écouté jusqu'ici. En même temps, le niveau était pas très élevé.
C'était pas terrible.
Oh, parce que, Catherine, parce que voilà, c'est sans prétention, ouais, c'est rythmé.
Manquerait plus qu'il soit prétentieux.
C'est sympathique. Oui, c'est donc voilà, je vous épargne d'autres déchets musicaux. Les sombres recoins d'internet fourmis de chansons à la gloire de la moustache. Je ne sais pas pourquoi, mais mis à part quelques ovnis de ci, de là à travers le monde, ça a l'air d'être assez français de faire des chansons sur la moustache.
Ouais, oui,
le
vrai.
Goût de l'absurde, peut-être. L'humour potache, sûrement. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela ? Quand on chante la moustache, déjà, on ne chante pas juste un simple éloge à la pilosité faciale. On ne se contente pas de scander un slogan « Vive la moustache !» Non, ça va bien au-delà. On crie au monde sa fierté d'arborer un symbole ostentatoire de supériorité. Avoir une moustache, c'est être meilleur que les autres. On l'a vu là, la moustache, tout le monde peut se l'approprier. Ça peut aussi bien être une marque de virilité masculine qu'un outil de libération féministe. Ouais, j'extrapole.
Vous savez
j'extrapole
qu'on y va quand
ouf,
même.
Hein.
Vous savez où on va quand même, les gars, quand même, j'espère.
La moustache oui. est quasiment toujours sexualisée. Elle devient un attrait de séduction ou d'affirmation de soi. Avoir une moustache, ça demande des capacités innées. Ça demande du temps et de la patience, de l'abnégation et des sacrifices. Ça se mérite le balai brosse impeccable sous le pif. Du coup, forcément, qu'on a envie de s'en vanter, de la montrer et de la chanter. C'est un peu l'équivalent du pan mâle qui déploie sa grande queue en gueulant « Léon !»
Tu le fais si bien.
Ah, j'avoue,
Léon pas tant que ça. Bref, plus sérieusement, c'est tout le temps bancal, voire totalement foireux, de faire tourner sa chanson autour de la moustache. Seul Philippe Catherine a compris que c'était juste rigolo. Point,
oui.
Voilà.
Ouais.
Donc, conseil à tous les artistes en herbe, laissez-vous pousser la moustache si ça vous chante, mais ne poussez pas la chansonnette pour votre moustache.
Exactement, c'est très bien, une très belle conclusion.
Est-ce que j'ai été trop long et...
Mais on est obligé de la mettre la dernière.
Mais ouais. Non, t'as pas été trop
Alors,
long.
Alors, j'ai pas été trop long. Puisque j'ai intitulé cette chronique « Tour d'horizon des chansons à texte dédiées à la moustache », je vous laisse sur cette pépite d'écriture issue du tréfonds de l'Internet des années 2010.
Oh putain.
Cuir, cuir.
Oh
oui
ah
Fujiko. Cuir, moustache. Cuir moustache, cuir, cuir, cuir moustache, cuir, cuir moustache, cuir, 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 cuir, cuir moustache.
Quoi, putain, c'est déjà fini.
Anecdote, j'ai embrassé un des plus grands amours de ma vie. Sur cette chanson en soirée cuir moustache où j'étais déguisé en gros moustachu.
Putain, t'as pécho là-dessus quoi. Ça,
j'ai pécho là-dessus.
C'est
fort, c'était un exploit.
Et on a beaucoup fait tourner. Non mais sérieusement, on a beaucoup fait tourner ça il y a une douzaine d'années au Cozy Bar à Dinan. Je pense qu'il n'y avait pas un soir où on la passait
ça, ouais,
pas.
C'est
à
les années 2010 où ça passait beaucoup.
Ouais. Et oui, c'est si loin.
Et bah, figure-toi que le mec qui joue avec Catherine et qui porte la moustache, je l'ai vu se raser pendant un happening. C'était nul à chier.
Tu m'étonnes nul.
Moi, je reviens
c'était
juste
pendant sur... les midi minuit poésie.
Je reviens juste
et
sur
tu l'as vu en vrai.
Bah oui.
Okay.
L'intro de Pépé, quand il nous dit comme ça, bah moi, quand on me parle de chansons à texte et de moustache, je pense à tout ce qu'il nous a montré derrière, alors que moi, basiquement, j'aurais répondu plutôt. Brassens, Ferrat,
ouais, bah, oui, chanson sur la moustache.
Ah ouais. Oui,
chanteur moustachu.
C'était la façon frère Jacques, c'était la façon. Ouais, peut-être un truc à trouver.
C'était la façon d'un.
Ah oui, moustache chanson. Moi, je pense Brassens sinon.
Bah voilà.
Ouais, directement là.
Ah oui, bah Brassens.
J'ai perdu le dos de ma clarinette.
Trop bien aussi.
Ah putain.
Dommage qu'il maîtrise pas les accords.
Oui, bah oui.
Eh bien, merci Pépé pour cette.
C'était cool. Désolé pour vos oreilles.
Ah non, bah, le petit extrait de Philippe Catherine était cool. Hein.
Ouais, ouais, non, mais voilà. c'est tout pardonné. Moi,
juste qu'il avait peut-être plus un peu plus mal quand je lui ai monté le son quand il aimait pas.
Ouais,
c'était vache.
Par contre, il me l'a mis dans la gueule le truc de l'Eurovision.
Ah, le twin, twin, twin. Ah, c'est horrible ça.
Alors, je ne savais même pas que ça existait, j'aurais oublié d'ici la fin de cet épisode. Et j'aime ça.
Et bah, je te le ferai réécouter.
Non.
C'est bon d'être amnésique, pardon.
Ouais, c'est clair.
Bah, puisqu'on a parlé de musique, on va pouvoir parler de notre héros moustachu vidéoludique préféré.
Ah merde, c'est mon tour.
Et on laisse la parole à Angelo pour ça.
Oui.
Ah,
on en parle. C'est
quelle version ça?
Ouais, c'est mais attends, ça vaut toujours mieux que l'Eurovision, on est d'accord.
Il faut savoir qu'Angelo m'a envoyé deux sons. Il y en a un qui dure 30 secondes, donc celui-ci, et l'autre qui dure 10 secondes. Après, tu sais, je vais répéter. Attends, est-ce que j'ai pas inversé l'extrait et le jingle?
Spoil pas tout.
Attends, je commence direct par une question.
C'est quoi
c'est
quelle version?
Ouais, c'est version Game Boy là.
Ah, c'est la version originale, ce que vous venez d'écouter.
C'est la 16-bit Game Boy ça?
Ah non, c'est 8 bits la Game Boy. Et oui, et c'est le son, pardon, je perds mes mots, c'est le son d'entrée du jeu Super Mario Land 2.
Ah, ok.
Puisqu'il s'agit donc de ça dont je vais vous parler ce soir, messieurs, je vais vous parler de Super Mario Land 2 et Six Golden Coins, de son nom complet. Donc, comme d'habitude, je vais m'attarder sur cette chronique en deux parties seulement. La première s'attardera sur l'histoire et le gameplay, et la deuxième sur la fameuse moustache de Mario dans laquelle je vais vous poser plusieurs questions. Donc, il faudra être au taquet. Et oui, un quiz dans le quiz. Évidemment, je vais commencer par quelques données pour vous contextualiser tout ça. Donc, Super Mario Land 2, eh ben, c'est un jeu de plateforme développé et publié en 1992 par Nintendo. C'est la suite de quoi ?
C'est la suite de Mario Land 1.
Là, c'est la suite de Super Mario Land, évidemment. Mario Land. Sorti en 1989, qui est le premier Super Mario sorti sur console portable. Donc les deux sortent sur Game Boy.
C'est que portable.
On est sur Game Boy, ouais. C'est développé sous la supervision de Gunpei Yokoi, comme son prédécesseur d'ailleurs, en l'absence du parrain, du big boss, du padré Shigeru Miyamoto, qui, alors là c'est mon avis, qui devait être plus occupé à cette époque sur des projets Super NES, je suppute. Alors c'est un des meilleurs jeux notés de la Game Boy, mine de rien, mais également un des plus populaires, avec plus de 10 millions d'unités vendues. Je parle quand même d'un jeu sorti en 92, ouais, je trouve ça quand même assez
énorme,
patent.
Beaucoup,
ouais. Super Mario Land 2 comporte un Easter Egg. Est-ce que les copains, vous pourriez m'aider à expliquer à nos auditeurs ce qu'est un Easter
c'est
Egg dans les jeux vidéo?
Bien sûr, c'est un œuf de Pâques.
Un clin d'œil.
C'est un œuf de Pâques littéralement, c'est un clin d'œil.
Alors c'est quelque chose qui va être caché dans le jeu et qu'il faut vraiment rechercher et qui se mérite. Et
c'est ça.
Souvent ça donne ça crédite par exemple à un des développeurs. Ou ça peut être
un secret de programmation en effet qui la plupart du temps est un clin d'œil. Et donc Super Mario Land 2, bah, il a un easter egg qui est assez fatasse, qui est fait par ce petit coquin de Kazumi Totaka qui s'est occupé de la bande-son. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a glissé une piste cachée qu'on appelle la Totaka Case Song et qui est récurrente, mine de rien, dans les plus grandes œuvres de Nintendo, entre autres Zelda Link's Awakening, Yoshi's Story, Animal Crossing, Luigi's Mansion, Mario Kart, etc. Ici, on peut l'entendre seulement au bout de 2 minutes 30 si on reste sur l'écran de Game Over. Chacha, est-ce que tu peux nous faire écouter ça?
Ah, mais oui!
J'attends la dernière note.
Et donc ça, tu tombais dessus par hasard quand même.
Ah bah tu tombais dessus. Moi j'ai dû tomber dessus quand j'allais aux toilettes et tu laisses la Game Boy allumée et puis t'entends le truc quoi. C'est ça. Donc c'est le 7e jeu de la série Super Mario, mais surtout c'est mon premier vrai jeu vidéo. Alors mon premier vrai jeu vidéo, c'est Tetris, mais est-ce que c'est vraiment un jeu vidéo? C'est mon premier vrai jeu vidéo que j'avais reçu comme cadeau de ma tata sur ma gigantesque...
Ah, par contre, de ta tata,
merci,
non,
tata.
Peut-être pas.
Mais oui, ma gigantesque, colossale Game Boy original grise de 317 kilos. C'était probablement pour mon anniversaire. C'était probablement en 1993 ou en 1994. J'avais alors soit 5, soit 6 ans. Ce fut la porte d'entrée de jeux vidéo que je ne quitterai jamais dès lors. Donc, l'histoire et le gameplay. C'est simple, hein, vous incarnez Mario, dont l'objectif principal est de récupérer la possession de son île, Mario Land. Des mains de son rival qui l'a shippé durant son absence dans Super Mario Land, donc le jeu précédent. Jeu dans lequel Mario était parti à Sarasaland pour retrouver la princesse Daisy, donc elle faisait sa première apparition à cette époque, donc pas la princesse Peach, la princesse Daisy, qui s'est fait kidnapper.
Il y a un lien de parenté ou...
Non, je veux dire
que. Rien à voir.
Alors,
Club Libertin.
Il était parti la chercher parce qu'elle s'était fait kidnapper par l'alien Tatanga pour la marier et récupérer son royaume. Voilà, pour le.
Qu'est-ce que j'ai quelqu'un qui t'écoute qui connaît rien. Tous ces noms, c'est tellement drôle, mais ouais, ça va, je connais.
Tatanga, c'est pareil, on l'a pas beaucoup revu dans l'univers Mario hein, depuis celui-là.
Daisy, Sarasaland.
Ouais, Sarasaland, par contre, ça parle un peu plus pour Mario Kart. Notons des passages à la Gradius dans ce jeu, à bonne entendeur de bonnes choses. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, il se fait shipper son île par un rival. Et savez-vous qui est ce rival?
Wario.
Et oui, exactement, c'est Wario qui fait ici sa première apparition. Sa première apparition, Wario, deux moustaches pour le prix d'une, les enfants. Et la magie du podcast. Voilà.
Mais avec les picots qui vont pas dans le même
sens. C'est ça, il a, on dirait qu'il a. Il s'est branché les doigts. Il s'est branché les doigts dans la prise et du coup, sa moustache a fait un truc comme ça. Donc, Wario, ouais, il chure l'île de Mario durant son absence parce qu'il voulait un palais. Parce qu'il n'en avait pas, voilà, tout simplement. Notons que Super Mario Land 3. Lui s'intitulera d'ailleurs Wario Land, sorti en 94. C'est ça.
Du coup, c'est Mario qui essaie de choper son.
Ça témoignera du succès de Wario dans ce jeu. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer évidemment sur l'histoire. Enfin, là, je vous ai donné les grandes lignes. Hein. Évidemment, il s'agit d'un jeu de plateforme. Je ne vais pas insulter votre intelligence. À savoir qu'il y a une map monde qui comporte 6 zones, comprenant chacune 2 à 6 niveaux différents, plus un donjon final. Le château de Mario, occupé par ce bon vieux Wario. Pour déverrouiller le dit château, il doit récupérer 6 pièces d'or, parce que pourquoi pas. Une anecdote, Wario est un jeu de mots en japonais. C'est évidemment une combinaison du M de Mario inversé, mais c'est aussi, ça vient du mot warui, qui signifie mal, méchant, mauvais, etc.
Je croyais que vous allez me dire que c'était guerre en anglais, mis en italien, quoi. Wario.
Alors,
c'est bien. C'est pour ça que t'as pas été recruté par Nintendo.
Ah ouais, non.
Pourtant, t'avais un beau CV. Alors, bien, intéressons-nous maintenant, donc justement, à cette fameuse moustache de Mario.
Attends, avant, les personnages, il n'y a pas Yoshi, il n'y a pas Luigi, il n'y a pas Todd.
Non, il n'y a pas Todd.
C'est vraiment Mario contre Mario.
Il
n'y
a pas Luigi.
Quoi.
Je pense pas qu'il y ait de Yoshi.
Je l'ai jamais fait.
C'est sûr qu'il y a
non, parce
pas
que...
Todd dedans.
Non, parce que tout simplement c'est.
Il est un peu à part celui-là,
c'est...
quand même, ce Mario.
Mais c'est Mario Land, c'est-à-dire que ça se passe pas dans le royaume champignon. Donc c'est pas les mêmes univers, tout simplement. Donc, intéressons-nous maintenant à la moustache de ce bon vieux Mario. Je vais vous poser plusieurs questions. Premièrement, pourquoi porte-t-il une moustache?
Je sais.
Ah, Mollusque, vas-y.
Alors, quand ils ont dû designer le Mario pour Donkey Kong, et ils avaient une limitation, ils ne pouvaient pas modéliser correctement la bouche, et du coup, ils ont camouflé ça par une moustache.
Oh, excellent.
Pour les cheveux, ils ont mis une casquette.
C'est une limite de programmation, effectivement, Mollusque, il gagne 1000 points pour Gryffondor. Il apparaît pour la première fois...
T'es pas pouf, sauf toi.
Il apparaît pour la première fois dans quel jeu?
Dans Donkey Kong.
Donkey Kong,
il s'appelle
Donkey Kong Country.
C'est Chacha. C'est Chacha qui a le point. Il apparaît pour la première fois dans le jeu Donkey Kong. Il apparaît dans le jeu Donkey Kong, pardon, en quelle année?
Mais ça n'existe pas, Donkey Kong tout court. Le premier jeu Donkey Kong s'appelle Donkey Kong Country.
Non, c'est non, sur Kong, Super NES, ça.
Quand tu montes avec Donkey Kong, tu balances des barils. C'est Donkey Kong.
C'est Donkey Kong.
Tout court.
Oui.
Donkey Kong Country, c'est un plateforme.
Parce que Donkey Kong, c'est le méchant. Il a chouré la princesse Peach. Il balance des tonneaux sur.
Ok.
Voilà. Alors, du coup. L'année de Donkey Kong, pardon.
85.
64
Non, plus. Je dirais
86.
Allez, 79
86.
Le plus près, c'est Mollusque.
82.
Le plus près, c'est Pedro.
Ah, 80.
81, c'est pour Pedro, donc un point pour Mollusque, un point pour Pedro. Donc c'est Donkey Kong en 81 sur... Sur quelle plateforme? Allez, je me permets celle-là, tiens.
Bah, c'est une borne d'arcade.
Et oui, c'est pour Chacha, deux points pour Chacha, c'est sur borne d'arcade, tout simplement.
J'ai du mal à le dire, donc ça valait le coup de le dire.
Et j'ai encore une question. Alors, il apparaît sur Donkey Kong, il apparaît en 80, il apparaît sur arcade. Mais il s'appelle comment? Est-ce qu'il s'appelle Mario?
Jumpman.
Il s'appelle Jumpman, c'est pour moi, c'est celui-là.
Fuckman.
Et oui, parce qu'il deviendra Mario seulement en 83 sur NES, dans quel jeu?
Mario.
Non, dans Donkey Kong Country.
Super Mario World.
Bros.
Super Mario Bros. Ouais.
Super Mario Bros, pardon.
Ah, c'est juste
Mario Bros.
Pépé a son premier point.
Il n'était pas encore Super.
Ah, oui, Super.
Il n'y a pas de Super. Nintendo, ouais. Ah, voilà, exactement. Ouais. Il apparaît dans Mario Bros pour la première fois sur NES en 83. Eh bien, voilà. Donc, c'est qui gagne? C'est Mollusque,
c'est moi.
J'imagine, dans cette histoire.
Il a eu deux points. J'ai eu deux points.
Oui, c'est vrai.
Bon, j'en ai eu un.
Vous savez
non, quoi, parce qu'il y a un point que je partage avec lui.
Non, mais ils ont deux points chacun. Mais j'ai une dernière question à la toute fin de la chronique. Donc, on verra à ce moment-là. En 81, comme disait Mollusque, pour coder les cheveux, une bouche, des doigts. Et ben c'est le bordel, figurez-vous. Donc la casquette, et ben ce sera pour cacher les cheveux, la moustache pour régler le problème de la bouche, les gants celui des doigts, et la salopette, elle permet visuellement de bien séparer la tête et les bras du reste du corps.
D'ailleurs, oui, il avait une salopette rouge au début, non?
Alors,
je sais jamais si c'était bleu ou rouge.
Et ben justement, c'est ma dernière question.
C'était
de quelle couleur est la salopette de Jumpman?
Rouge.
Rouge.
Qui a dit rouge direct Putain, du coup, on se retrouve avec trois mecs.
Il avait déjà donné la réponse avant.
Et on se retrouve avec trois. Non, j'ai posé la question, j'ai pas sous-entendu de réponse. Et oui, rouge, rouge
c'est
sur
ça,
bleu.
C'est devenu bleu après.
Ouais. Voilà, c'est ça, c'est l'inverse de notre futur Mario. Donc vous vous retrouvez tous les trois avec deux points. La castagne. La bagarre, c'est parti. Voilà, c'est tout pour moi.
L'important pour nous, c'est que Pedro est perdu.
écoutez, pas de problème là.
Ah oui, alors, attends, imitation, attends, attends, j'ai quand même une question sur cette salopette là.
Oui.
Elle est rouge. Oui. Mais est-ce qu'il y a un peu de bleu, genre il a un t-shirt bleu.
Elle est rouge sur bleu, c'est ça. Et après,
oui,
ça deviendra bleu sur
rouge. Pourquoi avoir inversé ce.
Parce que le fond est noir. Je pense que c'est pour ça.
Ah oui, tout ça, c'est des contrastes.
Bah oui, c'est pour les contrastes. Okay,
c'est ce que le donc guidé par des considérations pratiques.
Donkey Kong, c'est sur fond noir, si vous vous souvenez.
Et oui. Wario était en jaune et violet. Voilà, un point pour moi, je me l'arroge, merci. Alors,
Wario, il était en gris sur Game Boy.
Allez, bah, moins un pour Pedro.
Mais pour la petite anecdote, si vous avez. Est-ce que vous voyez visuellement à quoi ça ressemble, Super Mario Land 2
Non, vraiment pas.
Moi, j'ai jamais.
C'est très rondouillard, non?
C'est assez rondouillard, c'est assez joli parce que. Alors, ça a été mon premier. Alors, bon, deuxième jeu vidéo, si on dit que Tetris c'est drôle et que c'est un jeu vidéo, mais c'était pas le cas.
Mais oui,
mais
ça reste un jeu vidéo.
J'ai joué au Super Mario Land après le premier, après le 2. Pour le coup, c'est ma tata qui m'avait donné sa cartouche. Et le 1 est vraiment vilain, c'est-à-dire que Mario c'est un tas de pixels tout rabougri. Là où dans le 2, t'as des proportions, c'est visuellement proportionné, c'est plus élégant, il est rondouillard, etc.
Mmh. Voilà. J'ai une question, est-ce que tu as rendu sa cartouche à ta tata?
Pas du tout. Alors la vraie question, c'est surtout où est-ce qu'elle est aujourd'hui la cartouche.
La tata.
Évidemment que je vais répondre au premier. Voilà, voilà.
Merci beaucoup.
Merci Angelo.
Ça fait un petit Super Mario là, ou n'importe lequel, j'en sais rien.
Et bah du coup, ça m'a donné envie de revoir le film qui est incroyable.
Oh non. Et d'ailleurs, vous avez qu'un trailer de film Mario.
Ah oui, il va en sortir un nouveau.
Ah, du prochain, mais moi je te parle de celui où ils font confiance à la mycose.
Ah non, ça c'est pas cool.
Là où il y a des évolutions.
Et bah en vrai, le trailer donne envie.
Ah ouais.
À voir ce que ça va donner vraiment à la fin.
Et la VF fait grave plus envie que la VO.
Le premier film était un film d'animation.
Non.
C'était
un film. Ah si, pardon, il y a eu un film d'animation Mario.
C'est bien ce que j'ai eu. J'ai bien eu un des extraits dans une cassette du film en réel quand j'étais gosse.
Parce qu'il est jamais sorti. Il est jamais sorti en dehors du Japon.
J'ai jamais vu.
En entier, j'ai pas voulu m'imposer ça. En voyant les extraits, ça avait l'air tellement pourri.
C'est ça, en France, on l'a jamais eu.
Quand t'es gosse et que t'as un film Super Mario, t'es à fond.
Mais moi, j'avais la cassette, si tu veux, c'était des dessins animés. Et entre chaque dessin animé de Mario, j'avais 10 minutes de live action avec les deux persos qui étaient dans une espèce de. Clairement, c'était pas un hangar de plombier, hein, mais bon, ça voulait se faire passer pour un hangar de plombier.
Je vais me justifier, mais tant pis.
Ok, dis-moi.
Moi, j'ai grandi qu'avec un seul jeu, c'était le premier Mario sur NES.
Ok.
Donc, quand le film est sorti, j'étais dingue.
Ah oui, mais attends, j'aurais été comme toi. Hein.
Après, avec le recul, je sais qu'il est dingue.
Non, j'aurais été comme toi, j'ai eu la NES trop tard pour, pour ça.
Du coup, c'était vraiment du cynisme des producteurs aussi, hein, de se faire du pognon sur, sur ce truc-là.
Il y a eu un film Mario d'animation, mais il est jamais sorti du Japon. Et apparemment, il était très bien.
Dommage.
C'est celui-là où t'as le même. Nope.
C'est possible.
Ah oui. Oh, le dessin est pas ouf. Hein.
Ah, je crois que c'est des bandes promotionnelles.
Ouais, je pense que c'est une série celui-là.
C'est des trucs promotionnels.
Ouais.
Ah, ok.
Parce que c'est hyper rond le Mario. On dirait qu'il est défoncé.
Non. Là, le film est plutôt. Enfin, je vois que je retrouve ça. Enfin, bref.
Bien bon personnage Mario en tout cas.
Bah, merci Angelo pour ta petite chronique. C'était très bien. Et du coup, on va laisser la place à la littérature avec Chacha.
Oupli, plaplou,
pli. Monsieur a une moustache. Et du rouge à lèvres. Monsieur, il sait qu'il est belle. Monsieur, il sait qu'il est belle. Monsieur est fasciné.
Je l'ai pas trouvé celle-là dans mes recherches.
Thérapie taxi.
Ah.
Ça s'appelle Madame Claude, si je me trompe pas. Le nom de la chanson. Si t'as cherché que les noms qui s'appelaient moustache, c'est sûr que.
Ah, je cherchais chanson moustache. Et au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol d'entendre de la merde.
Donc, un peu de littérature, messieurs. La première phrase du livre est « Que dirais-tu si je me rasais la moustache ?» C'est l'origine d'une histoire complètement délirante, farfelue et déroutante. Et si un jour, une personne qui porte une moustache depuis des années se décide à la raser et personne ne se rappelle de lui avec une moustache? C'est l'histoire de base du livre « La moustache » d'Emmanuel Carrère. J'en ai deux verres sur les gars, si vous voulez regarder à quoi ça ressemble.
Allez, allons-y.
J'imaginais ça bien plus épais.
C'est exactement le même livre.
Oui, c'est juste que voilà,
il en cède.
Donc je vous refais le même si c'est un peu plus détaillé. Donc le personnage principal, d'ailleurs sans nom dans le livre, de notre histoire, décide un jour de se raser la moustache qu'il porte depuis des années, juste avant d'aller dîner avec sa femme chez des amis. À la suite de ce rasage, aucune réaction de sa femme ni de ses amis. Tout de suite, il pense que c'est un jeu avec eux. qui tiendra le plus longtemps dans ce jeu de tout est normal. Sa femme est, en fait, il faut savoir que sa femme est connue pour être une très grosse menteuse, ce qui est à partir sur l'hypothèse d'un canular dont elle n'arrive pas à se sortir. Il nous explique plusieurs histoires où elle a menti et a tout fait pour ne pas dire qu'elle avait fait une erreur ou dit un mensonge. On voit qu'elle plonge dans ses mensonges très très loin à chaque fois. Mais arrive un moment où la première confrontation arrive, et là, c'est le début d'une suite de réflexions du personnage sur ce qui se passe, et plein de questionnements. Avant de continuer, je vais vous expliquer un peu comment écrit le livre, parce que ce qui est important, c'est qu'on est toujours dans la tête du personnage principal, donc cet homme qui est son nom, qui vient de se raser la moustache. On suit toutes ses péripéties, toutes ses interactions et tous ses cheminements de pensée, et on a uniquement son point de vue sur la situation. Et en fait, le livre se découvre un peu par le rasage, le jeu, les questionnements, est-ce qu'il y a de la folie, tenter de vivre cette vie avec cette folie et sans moustache, et le dénouement. Ça fait un peu toutes ces étapes-là.
Dans la tête d'un mec qui est parano parce qu'il croit qu'il y a un canular.
Toute la question est là. Est-ce que c'est lui qui est parano ou est-ce que c'est les autres autour qui sont partis en cacahuète? C'est vraiment, en fait, tout va jouer surtout là-dessus, en fait. C'est ça. Donc, qui de lui ou de sa femme est fou? Est-ce qu'il a vraiment des pertes de mémoire? Parce qu'on va parler de certaines pertes de mémoire, comme d'un seul coup, peut-être il a l'impression d'avoir eu son père au téléphone, enfin d'avoir eu un message de son père, et après, quand il parle avec sa femme, mais ton père est mort il y a un an. Ses amis qu'il a vus, on a vu au début qu'il a passé une soirée, d'un seul coup, mais non, mais ses amis n'existent pas. Donc on se perd entre réalité ou folie, on ne sait pas justement. C'est toute la question.
Ça a l'air troublant comme truc.
Ouais. Oui.
Et bah du coup, oui, pour le lecteur, on est aussi perdu que lui. Bah, en même temps, c'est logique, puisqu'on ne sait pas qui dit la vérité. En même temps, c'est logique. On suit sa tête. Qu'est-ce qu'il pense, comment il pense, ce qu'il voit, ce qu'il a l'impression de voir, peut-être, on ne sait pas. Et en fait, ça revient toujours à est-ce que c'est un canular? Est-ce que je dois revenir sur mes choix? Est-ce que je dois continuer de suivre mes choix? Parce que est-ce que j'ai pris ces choix dictés par ma folie? On ne sait jamais. Toujours à se questionner là-dessus. J'avoue qu'il y a, il y a des moments, c'est un poil redondant et trop descriptif. Mais ça n'enlève pas le côté intéressant de la folie des événements à la suite d'un simple rasage d'une moustache. Des fois, on va se taper un peu 5-6 pages où c'est juste sa réflexion, est-ce que je pense bien, est-ce que je pense pas bien et tout. Ça peut être un peu long des fois par petits moments.
Rasage de moustache, c'est le point de départ.
C'est le point de départ de toute cette. Et pourquoi les gens ne se remarquent pas qu'il a coupé cette moustache, quoi. C'est fou. Et d'ailleurs, cette moustache disparue. Devient une véritable obsession, comme je l'ai dit. Alors que, comme il le dit lui-même, ça repousse une moustache. C'est pas si grave, à la fin. Et comme je l'ai dit, il y a plusieurs indices qui permettent de nous questionner sur la réalité. Il parle des vacances à Java, il y a des photos, d'un seul coup, les photos disparaissent. Plein de petits trucs, donc la mort du père,
c'est un retour vers le futur, il disparaît des photos.
Ouais, c'est... Non, c'est vraiment les photos disparaissent, c'est pas lui, il disparaît
des photos. La moustache disparaît des photos.
Putain, c'est trop trop. Sens, la moustache lui envoie des cartes postales de vacances, on est dans Amélie Poulain.
Ah putain, quoi.
Et du coup, quel est l'intérêt de ce livre? En vrai de vrai, le premier point, c'est vraiment de parler de la folie sans en donner une vraie réponse. C'est toujours une question de choix entre les autres sont fous ou est-ce moi? Est-ce que je dois accepter ma folie? Est-ce que mes choix de vie ou dans mes interactions sont dus à ma folie, à ma paranoïa? Des choses comme ça. Mmh. Et de nous perdre complètement, sommes-nous dans la tête d'un fou, de quelqu'un de juste perdu à cause de son entourage qui est en train de lui faire un méga prank de dingue? On ne sait jamais, on ne sait pas trop. C'est vraiment, en vrai, c'est vraiment le cœur du livre. Mais bien sûr, cette moustache. Et avant de vous en parler, je voulais juste savoir, si vous connaissez quelqu'un qui a toujours eu une moustache, qui a toujours cette moustache, un oncle, une tante, une grand-mère, une tatie, peut-être ta tatie qui t'a filé la cartouche.
Ah non.
Vous n'avez pas eu quelqu'un comme ça qui a eu une moustache très longtemps?
Moi, j'ai deux exemples.
Ouais.
Il y a mon parrain, du coup, qui a eu une moustache pendant des années et des années. Et il y a 5 ou 10 ans, il l'a rasée. Et du coup, quand je l'ai vue, je voyais qu'il y avait un truc de changer, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus.
Ah ouais.
Je savais pas ce qui avait changé chez lui. Ça m'a.
Ça se trouve, c'est la base de l'histoire d'Emmanuel Carr. Il est lui arrivé, ça se trouve.
Ouais. Tu vois, je l'ai reconnu. Je fais, ouais, il y a quelque chose. Qui... Je sais pas, il y avait
après,
quelque chose de changé.
Tu t'appelles Pépé Carrère, il y a peut-être un truc aussi, il faut dire.
Non, mais j'étais pas le seul en plus. Et puis, c'est quand on nous a dit, bah, il s'est rasé la moustache. Mais ouais, mais bien sûr, mais c'est ça. Et ça, du coup, ça devient une évidence.
Il m'est arrivé la même chose
mais
avec
sur
une
le moment,
barbe.
C'était pas.
Il m'est arrivé la même chose avec une barbe entière.
Une barbe. Ah, carrément la barbe, quoi.
Un des meilleurs amis de mes parents vient chez mes parents quand on était petit. Et moi, je le connaissais très bien parce que c'était le père d'un ami aussi. On bloque. Moi, je dis bonjour, rien et tout. Enfin,
tu le reconnais quand même?
Je le reconnais, oui, oui. Ouais. Alors, mais oui, comme quoi, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se passent par le haut du visage, puisque on le reconnaît. Et ma mère, Et lui, pendant 5 minutes, on le voit, il est en train de se marrer, quoi. Et au bout d'un moment, il se touche les joues, Et ma mère finit par faire un grand « Oh !» Et là, moi, en même temps, je dis « Oh, bah t'as plus de barbe !» Mais c'était irréel, quoi. Ça a duré 5 ou 10 minutes dans la même pièce, sans se rendre compte que le mec, on l'a toujours connu avec une barbe. Mais attention, une barbe
nerveuse. Ah, la grosse barbe, quoi.
Ah ouais, ouais, ouais.
En fait, vous imaginez un peu le livre, c'est pareil. Lui, il se rase la barbe, la moustache. Et du coup, il voit rien. Et puis, des fois, il fait le truc de se toucher le là, il fait « T'es où ?» Il ramène la main de « Oh, oh !» Enfin, tu comprends, quoi. J'ai la même chose, un oncle qui a toujours la moustache, un jour il l'a coupé, moi par contre ça m'a fait « qu'est-ce que t'as fait ?» et
tout. Mais t'as, ouais, t'as tout de suite vu qu'il
moi, je l'ai vu direct pour le coup, par contre.
C'est, ouais, Léa m'avait raconté aussi, parce que j'en avais parlé du thème, et du coup elle a dit « un jour mon père s'est rasé la moustache ». Et du coup, à chaque fois que je rentrais à la maison, parce que c'est quand elle était étudiante, quoi, à chaque fois qu'elle rentrait, elle faisait « Ah putain, j'avais oublié que t'avais plus la moustache. Elle avait un sursaut à chaque fois qu'elle le voyait.
Elle avait une perte de mémoire le temps de la semaine.
Ouais, c'est ça, maman, c'est qui le monsieur dans la cuisine ?
Non, mais c'est vrai, mais même moi, comme exemple, parfois ça m'arrive de pas me raser pendant une semaine, deux semaines, voire trois. Ouais. Donc il y a la barbe.
Ça commence à pousser, quoi.
Et du coup, tu vois, je vais me raser, je vais voir les enfants, et je leur dis « Regardez, papa Ils sont là, quoi. Ils
t'as pas de beubard en même temps, quoi.
Bah, au bout de 3 semaines, un peu, quoi. Mais si je me rase à blanc au bout de 3 semaines, les enfants, ils sont là, ils ont. Je sais pas, qu'est-ce que ça laisse-nous tranquille.
Ouais. Je savais bien que vous auriez des exemples, c'est pour ça. Je posais cette petite question au milieu, je savais bien qu'on aurait tous.
Le bouc maléfique, Pépé.
Oui, moi, oui. 3 semaines, ça ressemble à un bouc, puisqu'il y a une barbe.
Ils veulent Pépé, ça fait longtemps. Mec.
Et c'est, ça te va tellement bien.
Non.
Non.
Si,
si, non. Si. Non, c'est un méchant de film.
Si, si, continue avec ce bouc. Les gros connards de potes, on sait très bien que ça lui va pas.
Moi, je trouve que ça fait Evil Abed à mort, quoi, dans Community.
Et oui,
Evil Abed et Evil Troy.
J'avais oublié. Du coup, quand même, la moustache dans ce livre. Alors, en fait, c'est un caractère physique de la personnalité, clairement. En fait, on en revient vraiment à là, dans cette histoire, en tout cas. On dirait qu'au moment où il retire cette moustache, toutes ses pensées, toute sa vie changent complètement. C'est comme si on changeait vraiment de personnalité, comme si son entourage changeait, comme si tout changeait. Il perd un élément de stabilité de sa vie, en fait, complètement.
De stachabilité.
Stachabilité, oui, oui. Et on en revient à des petites questions un peu genre philosophiques. Qui suis-je sans gel quand je l'ai toujours porté ? Suis-je moi sans ma moustache ? Est-ce que ça change l'interaction avec mon entourage quand je n'ai plus de moustache ?
Ça va loin.
Des choses comme ça. Alors, on en revient un peu à ça, parce que il tombe dans une folie de dingue juste parce qu'il s'est rasé une moustache, quand même. C'est ça, le base, quoi. Tout ça pour vous dire. Le livre n'étant pas très long, 182 pages exactement.
Mm-hmm. Spoil pas, j'ai envie de le lire.
Ouais, bah depuis que tu nous en parles, j'ai envie de le lire
simple.
Aussi.
Oui, la lecture est rapide, mais aussi simple. Si vous aimez les bouquins psychologiques et qui vous laissent dans un mystère permanent, c'est sûr que vous allez aimer ce livre. Il y a eu ces petits moments avec trop de descriptions de ses pensées, comme je vous l'ai dit, qui m'ont un peu gêné, mais pas au point que ça me sorte du livre non plus. Mais en dehors de ça, j'ai pris vraiment un plaisir à lire ce livre, et à la fin est tellement déroutante, dérangeante et étonnante que ça vaut le coup.
Merci.
Okay.
Et du coup, je ne fais pas le spoil, je l'avais mis de côté, ok.
Ah non, spoil pas, parce que ça donne grave envie. Et la quatrième de couverture que j'ai parcourue aussi,
ouais, pareil.
Qui résume un peu ce que tu viens de dire.
Il est pas bien épais, le bouquin, en plus.
Oui,
c'est une collection folio, donc c'est des livres de poche et tout.
Trois heures, vraiment, ouais. C'est un exemple.
C'est un exemple typique. J'ai perdu le thème littéraire, mais quand le narrateur n'est pas fiable, il y a un terme littéraire pour ça.
Ah oui, c'est possible.
Mais voilà, ça paraît, c'est un cas d'école, on dirait.
Et pour info, juste pour finir, il y a un film qui a été réalisé par Emmanuel Carrère, co-scénario aussi. Et donc avec Vincent Lindon, Emmanuel Devos, Mathieu Amalric et Hippolyte Girardot, pour info, qui était en 2005, alors que le livre est de
86.
Merci.
Ah oui,
quand même.
Ouais, il l'a fait longtemps après. Ouais. Alors pour le coup, moi je recommande plus le livre, parce que le problème c'est qu'on est vraiment dans ses pensées, sa façon de penser. Ouais. Dans le film. Ils ont pas fait l'erreur de mettre une voix off de ses pensées, ça aurait été chiant. Mais du coup, je trouve qu'on perd un peu de force, de compréhension de ce qui se passe, de où il va, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça.
Bon casse Lindon pour ça, par contre. Ouais.
Ah oui, il est très bien. Il a une bonne tête. Mais et aussi, la fin est changée dans le film.
Non, mais pas exactement.
La fin, tu dis quoi ?
La fin, il n'est pas pareil que dans le livre.
Et du coup, moins pertinent.
J'ai préféré la fin du livre, mais elle est vraiment déroutante.
Ok.
Ouais, donc il y a vraiment un objectif, c'est pas juste pour faire de l'absurde.
J'ai envie de te dire, lis le livre maintenant, okay. Parce que là...
Mais en fait, j'avais lu un extrait, je sais pas si ouais, tu peux le spoiler, parce que je pense qu'il y a pas grand-chose si j'ai trouvé facilement sur Internet, mais en gros, tu parlais d'un petit peu de la déconnexion du mec à son propre, mm-hmm. sa propre personnalité, et du coup, j'avais lu un passage où du coup, il fouille dans les poubelles pour retrouver les poils de sa moustache.
Voilà, c'est le tout début de la folie.
Il remonte dans son lit, à côté de sa femme, et il dit, bah regarde... Et en gros, tu sens que le mec a pas de conviction, qu'il est complètement vidé de sa substance.
Ça, c'est, ouais, c'est
et qu'il lui tend sa moustache sous forme de poil dans le creux de la main. Quoi, et ça a l'air pitoyable en fait comme scène.
Et excessivement flippant en même temps.
Ouais. En fait, c'est le début de la folie et là où la femme n'arrive plus à suivre.
Ouais.
Hein, voilà, c'est
ouais, très envie de lire ça. Ça y a la façon, non, mais sans déconner, la façon de le décrire et tout, ça me fait penser à un bouquin d'Ira Levin qui est pourtant mais pas du tout dans ce délire là. Hein. Ira Levin, c'est 50 ans plus tôt et ça parle de trucs un peu. Ésotérique, on sait jamais trop en fait. Mais la façon qu'il a de l'amener, en tout cas ce que tu nous en racontes, la quatrième de couve, et le fait que ça soit pas très épais comme ça, donc il faut que ça soit un petit peu tabassant très vite, mm-hmm. ça me fait complètement penser mm-hmm. à ça.
Bah allez-y, bon, je peux te le prêter si tu veux.
Avec
tu peux
plaisir,
partir avec, hein.
Avec un immense plaisir.
Bah je prends le deuxième.
Ah merde, pourquoi putain, t'en as pas eu le temps de le dire.
Le deuxième, hein. Et Ajane, faut lui demander. Quoi.
Ah d'accord, parce que j'allais venir, pourquoi t'en as deux voilà,
non, bah, je vais les laisser à Nantes, parce que moi si je pars avec, c'est pendant un mois, donc je les laisse à Nantes et quand non, je reviens la prochaine fois, j'en emprunte.
Ils t'en laissent à Nantes, ils vont se débrouiller quand même, les Nantais.
On va ouvrir une bibliothèque.
C'est bien urbain de votre part.
Voilà, voilà. Bah, en tout cas, allez-y à fond, c'est vraiment cool. Et ça se lit vite, ça fait un bon petit livre à lire.
Très bien, merci.
C'est un peu feignant, le film passe quand même.
Voilà. Non, mais je trouverai le bouquin sur un site de
ouais,
druide.
Je préfère lire aussi.
Sur un site de druide. Voilà. Voilà.
Toujours.
En plus, avec PE, on a un bon druide.
Y a pas mal de druides en moins ces derniers temps. Il y a la chasse aux druides. Les temps sont durs pour les druides.
Ou alors, ils se sont fait zouker.
Ouais.
Eh bah, merci beaucoup, Chacha, pour cette description de bouquin. Ça m'a donné envie de relire, en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas lu. Et du coup, maintenant, c'est Pedro qui va nous parler juste de moustache en série. Alors, je sais pas comment ça va s'articuler.
De céréales voilà, moustache.
Vous allez vite comprendre. Envoyez le générique, mon cher Chacha.
Allez, Magnum.
Je suis pas en
oh, pourquoi pas.
Ouais. Ouais.
Pourquoi pas.
Ouais. Ouais.
Histoire de l'avoir deux fois.
Ouais, c'est trop ça, quoi.
Effectivement, on va aussi un peu parler de ça. Alors, je vais commencer comme je m'étais préparé.
Ok.
Bonjour et bienvenue à cette première cérémonie de remise des stages d'or de la télévision. Merci du calme.
C'est ce qui
je va. Vous rappelle le concept, nous sommes ici pour que je décerne après moult délibérations au sein d'un jury composé de Me, Myself and I, plusieurs stages d'or récompensant les acteurs ou l'acteur, et pour une fois je suis sûr que personne ne se plaindra pas qu'il n'y ait pas d'actrice de série télévisée portant le mieux la moustache dans les catégories que vous allez découvrir en direct parce que j'ai pas 15 ans pour vous pitcher le bousin bande de moules. Sans plus attendre, dans la catégorie moustache, espiègle et polisson, les nominés sont Pedro Pascal pour son rôle de Mandalorian dans The Mandalorian,
c'est vrai.
Aiden Gillen ou Littlefinger dans Game of Thrones, mm-hmm. et David Suchet oui. dans Hercule Poirot. Étant donné que Pedro Pascal ne montre jamais sa tronche et que Aiden Gillen est très énervant, en plus de porter un mini-book détruisant tout, la victoire revient...
Attends, avant de donner le trophée, dans The Mandalorian, il enlève son casque...
Ouais, non, tu le vois deux minutes,
deux fois.
Et il a pas la moustache quand il enlève le casque.
Si,
laisses le jury délibérer,
il avait vraiment la moustache pendant le tournage, sauf qu'à un moment, tu le vois de dos, donc je sais pas comment tu fais pour...
Tu le vois de face en Mandalorian.
Et pas sûr qu'il ait la moustache.
Écoute, dans cette première saison...
Enfin bref, le jury a décidé.
Il n'y avait pas. Et le jury a décidé de toute façon
il gagne pas, donc,
que la victoire revient facilement, mais non sans mérite, à David Suchet, qui incarna durant 70 épisodes Hercule Poirot,
70.
Détective belge,
Vendu
n'ayant pas son pareil pour résoudre les enquêtes les plus délicates de 89 à 2013.
Il y a Mélanie Laurent qui se casse, elle n'est pas d'accord.
Le personnage d'Hercule Poirot, inspiré des romans d'Agatha Christie, est magnifiquement campé à l'écran par l'acteur de théâtre britannique de 76 ans aujourd'hui.
Et oui.
Qui ne porte pas la moustache dans la vie de tous les jours.
Yeah!
Bravo, attends, c'était Jude. Quelle catégorie là?
C'était Moustache espiègle les polissons.
Ouais, Hercule Poirot, polissons.
C'est la moustache qui espiègle les polissons, pas Hercule Poirot.
Oui, quand, fait, quand il fait son petit sourire là.
Ouais. Ah, c'est vrai. Oui, non, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est
espiègle, allez, okay. Nous allons maintenant aborder une catégorie qui va vous plaire, je le sais.
Nous allons arborer.
On peut arborer, hein.
Dans la catégorie moustache de gros bâtard.
Borat, Borat.
Les nominés sont. Bah non, il fait pas une série, Borat, si t'avais suivi.
Hulk Hogan.
Bryan Cranston pour son rôle de Walter White dans Breaking Bad ou Breaking Bad la chimiste au Québec. Wagner Moura pour son interprétation de Pablo Escobar dans Narcos.
Ah, oui, voilà.
Ou Robert Knepper pour son rôle de T-Bag dans Prison Break.
Oh non.
Oh non.
Alors on va tout de suite évacuer cet enfoiré de Robert Knepper qui est accusé d'agression sexuelle. Ah oui. Il y a donc match entre Coke et Meth. Et à ce petit jeu, on va récompenser l'audace de Brian qui munit d'un crétin.
Ah si si.
Qui munit d'un crétin niveau collège, trois tubes à essai et un camping-car réussit à produire la meilleure meth, la meth la plus pure des States.
Puis
on notera aussi
stache,
que chez Brian, ou plutôt Walter, la moustache apparaît en même temps que la connardise. Et puis Pablo, il construisait des écoles, il aimait le foot. On peut pas c'est être vrai. Un mauvais type dans le fond quand on fait tout ça. Voilà. On notera également que Brian a interprété Walt de 2008 à 2013 sur AMC. Sa performance qui a permis entre autres à Breaking Bad de remporter de nombreuses récompenses, 87 Emmy Awards, dont 4 du meilleur acteur pour Bryan Cranston himself. Et vu comment ça se termine pour sa moustache et le reste de sa personne, rappelons, si c'est encore obligatoire après l'épisode de la saison dernière, que la drogue, c'est mal.
Surtout que sa moustache a fini en bouc. Et ça c'est triste.
Ah oui,
c'est
très triste. Elle finit très mal. Ouais. Elle finit très très mal. C'est... Dans la catégorie moustafette ou moustache dans une estafette, les nominés sont Tom Selleck pour son rôle de Thomas Magnum dans Magnum, Ted Levine, aka Captain Leland très chiant à dire celui-là, Stottlemyre dans Monk, ou Colin Farrell, qui est Ray Velcoro dans True Detective, saison 2.
Ah ouais, mais j'ai pas, ouais. Bah non,
on s'en fout, lui.
Et là, j'ai une nomination spéciale pour Pablo Schreiber, le gros connard de garde George Mendes d'Orange is the New Black, parce qu'il aurait pu être dans la catégorie précédente. Bon, trêve de suspense, ça sera pas Pablo, parce que c'est un personnage secondaire déjà, et puis parce que j'avais pas envie, objectivement. Voilà. Ça sera pas non plus Colin, parce qu'il avait qu'à être un bon acteur.
Allez.
Non, c'est pas sa faute, c'est le scénario qui était pas ouf sur la saison.
Ah non,
2,
mais je l'ai vu dans d'autres trucs aussi. Et ça ne sera pas non plus Ted Levine, parce qu'il est vraiment aussi con que sa moustache est épaisse. Bravo à Tom, donc, qui porte aussi la stache dans Blue Blood, d'ailleurs, une autre série policière américaine, mais que je ne voquerai pas plus que ça, étant donné qu'elle est à la télé ce que le couteau est à la purée.
Dans Friends aussi, il
bah oui,
l'a toujours.
Tout à fait, mais ce n'est pas une série policière, c'est pour ça qu'elle ouais, n'est pas citée dans la moustafette.
Est-ce qu'il est déjà apparu sans moustache?
Oui, c'est possible. Il y a des trucs sans moustache.
Ouais, certains prétendent l'avoir déjà vu.
Oui. En tout cas, on ne les a jamais vus ensemble.
Je crois qu'à une époque, il y avait Walker Texas Ranger qui le cherchait. Il devait le chercher, il s'est rasé la moustache pour passer incognito. Je vois que ça.
Toute une époque.
Voilà. Blablabla. Tom qui nous gratifia donc de sa moustache, ses chemises hawaïennes et sa superbe Ferrari 308 GTS dans 162 épisodes diffusés entre 80 et 88, année de ma naissance et de sa disparition, enfin de la disparition de la série. Et à mon avis, il n'y a pas de hasard. Bon, alors là, c'est un privé, hein, mais ça n'en reste pas moins un Condé. Il s'occupe d'ailleurs de la résidence privée d'un gros Richard d'écrivain, Robert Master, avec le majordome à balai dans le cul Higgins, deux Doberman et ses potes ex du Vietnam eux aussi. Bon, c'est clairement pas la série la plus futée dont on va parler ce soir, ça c'est certain.
J'ai vu que un épisode dans ma vie, je pense.
Ça détend plus que The Wire, par exemple.
Ah oui, tu m'étonnes.
Dans la catégorie moustache Balek, les nominés sont Arnaud Samer, alias Captain Sport Extrême dans HeroCorp.
Oui.
Jason Lee ou Earl dans Earl. Et Clayne Crawford pour son rôle de Riggs dans L'Arme Fatale. Et là, on va faire simple.
Attends. Je croyais qu'on parlait de série.
Alors, tu vas réécouter ce que je viens de dire. Clayne Crawford dans son rôle.
Putain, vache.
Dans L'Arme Fatale.
Ah,
excuse-moi, Riggs dans L'Arme Fatale.
Je me suis arrêté à Riggs dans L'Arme Fatale et c'est tout, quoi.
Voilà. Clayne Crawford, donc ce n'est pas Meryl Gibson. Ouais. Voilà.
Excuse-moi.
C'est l'adaptation. C'était... L'adaptation. Mais
c'était
trop rapide. T'inquiète pas, j'y viens vite. J'y viens vite. Et là, on va faire simple. Donc, je vous disais, match nul. Jason, si drôle en repentir dans Earl, et Arnaud, lui aussi poilant en super-héros nanar 2 féru de sport crétin, ah oui. M'ont tous deux forcé à changer plusieurs fois de slip courant des années 2000. Alors que Klein, lui, dans le même temps, s'occupait de détruire méticuleusement, l'un des héros de mon enfance. Donc, les héros de Earl et HeroCorp se partagent la récompense et pan. Un pan de moustache dorée chacun, et pas de jaloux, et va te faire foutre,
mais non,
Klein.
Mais Earl.
Quoi ?
Mais mille fois Earl.
Pourquoi on pourrait pas voter, nous ?
Captain, mais c'est comme ça, c'est tout. Voilà.
Vote du public. Voilà. C'est Me, Man, Save et Ike.
Ultime, plus ultime catégorie, l'ultime moustache, la divine, la golden. Sont nominés les persos les plus dignes de mon intérêt. Ned Flanders, joué par Ned Flanders dans Les Simpsons. Nick Offerman, a.k.a.
Oh,
Ronald Ulysse Swanson de Parks and Recreation.
Oui. Ah oui, tous les jours.
Et Danny McBride, a.k.a. Neil Gamby dans Vice Principal. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Ned. Mais son côté préchi-précha m'a trop souvent buté. Et même si le perso est bien plus cool que ne le laisse entrevoir ses premières apparitions dans la série de Matt Groening, c'est bien l'empereur du cool, l'agent le plus qualifié pour ne rien foutre de toute l'administration française, qui l'emporte.
Oui,
parce que j'aimais beaucoup aussi Neil Gamby, mais trop court. Il faut que vous voyez cette série, absolument, mais trop court. Seulement 2 saisons de moustache de Neil Gamby, c'était trop court. La série de Greg Daniels, c'est Michael Schur, donc Parks and Rec. Diffusé par NBC aux États-Unis, avait réuni un impressionnant casting. Amy Poehler dans le rôle principal, Nick Offerman donc, Aziz Ansari, Chris Pratt, Aubrey Plaza, Adam Scott, Rashida Jones, Rob Love, voilà, je ne vais pas tous vous les faire. Et pourtant, eh ben, elle a longtemps peiné à s'imposer en France. La faute peut-être à une première saison un peu poussive et à la comparaison quasi constante due au format à The Office. Pourtant, dès cette première saison, un personnage a su tirer son épingle du jeu, oui. C'est Ron Swanson. Oui. Interprété, que dis-je ?
Sublimé.
Merci pour ton aide. Par Nick Offerman.
Et sa moustache.
C'est une vraie usine à mème.
Ah oui.
Sa moustache est devenue iconique. Ses citations sont reprises sur BuzzFeed. Oui. Il a plusieurs Tumblr, dont c'est... un sur des chats qui ressemblent à Ron Swanson. Et c'est très drôle. Et il a plusieurs comptes Twitter également à son nom, avec à chaque fois plusieurs dizaines de milliers d'abonnés.
Normal.
En termes de culte, Nick Offerman est devenu une sorte de Bill Murray du petit écran. Et j'ai pas peur des mots, clairement, les gars, je vous le dis. En 2012, une critique télé du LA Times, décrivait ainsi Ron Swanson, ce personnage apparemment banal. Ouvrez les guillemets. Et vous, là, vous allez, je vais voir si vous avez toutes les refs. Mm-hmm. Ron Swanson ne porte pas de gilet et ne boit pas de thé. Il n'abuse pas de Vicodine. Il ne harcèle pas son équipe. Il ne vit pas avec 2 autres drôles de gars et une fille. Ou un autre homme et son fils. Vous voyez toutes les séries auxquelles il s'agit là ?
Non, ça va trop vite là.
Alors, je vous la refais. Il porte pas de gilet et ne boit pas de thé. On parle de 2012, donc c'est pas Sherlock. Ah. Il n'abuse pas de Vicodine et ne harcèle pas son équipe.
Dr House.
Il ne vit pas avec 2 autres drôles de gars et une fille.
Putain, je l'ai pas, ça.
Je sais pas du tout.
Non, Jessica Day, ça vous parle pas?
New Girl.
New Girl, exactement. Oh. Bien joué. Ah, oh, c'était bon comme série, ça. C'était cool. Pas mal. Ouais. J'ai perdu ma ligne, c'est vachement pratique. Il ne vit pas avec un autre homme et son fils, Two and a Half Men.
Oui.
Mon oncle Charlie.
Ça, pour le coup.
Voilà. Ron Swanson n'est pas une grande gueule de la police. Il ne tue personne rituellement avant de dire que c'est de la faute d'un traumatisme de son enfance. Voilà, comme
Dexter.
Ça. Ouais, voilà, exactement. Ron Swanson avait tout pour être l'un des personnages les plus détestés de Parks and Rec, pourtant, au départ. Au début de la série, il était présenté comme le méchant, comme le soulignait Amy Poehler lors de la conférence au Palais Media Center, celui qui devait affronter Leslie Knope pour que ses projets voient le jour. Ce libertarien, donc c'est une philosophie politique qui n'est pas très présente en France, déteste l'Europe et le Canada, considère les États-Unis comme le seul vrai pays et voit dans chaque intrusion de l'État l'avancée du communisme. Pour lui, les chiens de moins de 20 kilos sont des chats et les chats, ça sert à rien. Ron est direct, honnête, trop honnête et tient à sa vie privée. Il a un peu de mal avec la technologie, il a un avis assez arrêté sur les légumes, se moque des bobos, il a des principes et il y tient. Un peu comme la caricature d'un homme des années 50 s'était téléporté dans notre monde. En fait, après réflexion, Ron Swanson, c'est Angelo avec une moustache.
Oh putain.
Bim.
Plus sérieusement, Ron Swanson est un succès d'écriture et d'interprétation. Plus fin qu'il n'y paraît. Il aurait pu ressembler à tous ces hommes qui pensent être l'incarnation de la masculinité et qui sont en fait une succession de clichés ratés. Mais c'est avec Neil Gambi de Vice Principal, Homer Simpson des Simpsons et la bande des trois idos de Trailer Park Boys, le personnage qui m'a fait le plus rire de toute ma vie à la télévision. Récompense bien méritée, ouais. Bravo mon pote, bravo mon Ron.
Ah oui, bravo ah oui.
Ron. Vous avez bravo vu cette série les gars?
Non. Non. Évidemment.
Quoi? Qui a dit
court.
Non?
Court.
Ben qui a dit non?
Ah non, courez les gars. Savoir absolument.
Courez.
Ah, surtout si ouais. vous avez kiffé The Office.
Accrochez-vous les 4-5 premiers OP, vous pouvez ouais. faire un peu comme pour The Office, ou là, voilà. Pff, qu'est-ce que c'est? Et une fois après... qu'on a passé ça, pooh, c'est l'autoroute du kiff et de la rigolade. Et Ron Swanson est vraiment, mais...
Il y a un livre,
il tient la série.
Il y a un livre que je regretterais toujours de ne pas avoir acheté dans une petite librairie indépendante de Seattle une fois. Un livre écrit et édité par... Alors c'est Nick Offerman, l'acteur, mais sous son rôle de Ron Swanson.
Oh, putain.
Comment construire des kayaks. Tu me vois au milieu d'un lac avec son kayak.
Mais il faut qu'on trouve ça, Angelo.
C'est incroyable.
Ah, il faut, voilà. ce mec peut une seule
passion.
De
ouais. Il a deux passions, c'est le whisky et faire des kayaks.
On parle du personnage.
Mais il est énorme. Il est capable de survivre. Ça, c'est un survivaliste en même temps. Il est anti-tout. Tu comprends absolument pas ce qu'il fout dans l'administration américaine.
Oui,
tout l'emmerde. Il veut que rien ne bouge. En fait, il bloque tout. Il bloque tous les projets de la ville et tout. C'est une horreur. Ce mec, il est génial.
Il est trop drôle.
Génial. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ça m'a fait plaisir.
Bah, donc, c'était une chronique sur Ron Swanson déguisé.
Oui, voilà. Ouais. C'était un peu
clairement.
Déguisé.
C'était lui. Mais c'était non, lui que tu voulais acheter.
Je distribuais les prix des moustaches les plus sympathiques. Voilà. Mais clairement, la palme.
Tu avais ton préféré.
Bah ouais, c'est mais quand tu vois quand tu vas à Cannes, il y a la palme d'or, mais avant il y a plein de récompenses à la con.
Exactement.
Et bah c'est ça, c'est pareil.
Pedro, t'as fini sur le dernier truc là, il est minuit. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais.
Ah merde, je devrais être à l'aéroport depuis 11h, c'est chiant.
T'as un tournage après, hein. Fais attention. Ouais,
c'était super.
Et bah du coup, est-ce qu'on peut conclure
Est-ce qu'on aborde
toutes les moustaches de la terre entière?
Alors moi je vais juste
Pedro,
dire que
t'es dans le pédale ou...
À la fin de la semaine je vais faire une petite moustache parce que je fais Halloween et c'est fête de la mort donc en mode mexicain donc je fais une moustache.
Ah, c'est raciste. Semaine.
C'est bah,
raciste.
Je suis raciste caricatural. Ça s'appelle un déguisement, c'est la caricature.
Est-ce que tu vas la garder tout le mois de novembre?
Non.
Non.
Ça s'appelle une Mexican face. Hein. La, oui. Moustache, la moustache maintenant c'est une mix.
Ah et puis j'aurai le sombrero et le poncho en plus donc. Et voilà, ça continue. Non mais voilà, je le dis, hein, dans peu de temps je...
Donc tu bois de la tequila la semaine prochaine.
Ah.
Bon en même temps je crois qu'en conclusion d'arbre. C'est compliqué d'avoir grand chose de plus à dire sur la moustache.
Non
c'est,
bah
c'est trop large.
Non, mais on a un peu moins parlé des. Bah comme on a parlé de Brassens, on pourrait voilà. parler de Freddie Mercury, on pourrait de
Zappa, Captain Beefheart,
Charlie Chaplin, j'en sais rien,
Prince,
des gens qui.
Lionel Richie.
Les célébrités à la moustache.
Ouais, les célébrités à la moustache.
On peut le dire, on retient peu de personnages parce qu'ils ont des lunettes. On retient peu de personnages parce qu'ils ont une coupe vraiment spéciale. Hormis quelques farfelus. La moustache, c'est quand même un super marqueur. À tel point qu'il y a un jeu, il y a des jeux sur Internet où vous pouvez aller cliquer sur,
oui, sur la moustache et
le il faut retrouver le personnage qui est associé à la moustache.
Mais tu sais, pour en revenir à Ron Swanson, évidemment que la moustache est déterminante, mais en fait, il a une moustache furieuse. C'est-à-dire que comme il a un regard perçant, pénétrant, oui, c'est un ours, et il a des sourcils, gros sourcils foncés. Donc la moustache, ça sublime tout ça. Ça sublime le côté bourrin, grognon.
Complètement. Je trouve que sa moustache est aussi représentative que celle, par exemple, on parlait de Brassens tout à l'heure. Alors il y a une version politique qui est un peu moins fun du côté de nos amis russes.
Staline,
la moustache de Staline, on l'imagine obligatoirement avec sa moustache. Ouais, si je te dis vrai. Staline, tu penses à la moustache.
Oui, je pense que justement, elle avait ce petit rôle de le rendre sympathique en tant que petit père du peuple.
Ah bah complètement.
Ah, oui.
Ah mais complètement. Complètement.
Alors que on dérive totalement sur de la politique.
Non, ouais.
Non mais c'est pas l'idée. Par contre, j'ai une excellente anecdote.
Ron, c'est l'inverse. Ron, c'est vraiment le mal alpha. Enfin, la moustache, c'est vraiment.
J'ai une excellente anecdote, par contre, politique américaine sur la moustache. Et je me demande si c'est pas l'un d'entre vous qui me l'a glissé. C'est pour ça que ça m'étonne qu'on en ait parler ce soir. C'est pas vous qui m'avez parlé de la moustache de Lincoln?
Pas du tout.
Savez-vous pourquoi Lincoln portait la moustache?
Pour cacher une cicatrice.
Non monsieur, parce qu'il a reçu la lettre d'une petite fille qui lui a dit « T'es quand même sacrément moche, tu devrais faire quelque chose pour qu'on voit moins ton visage !» Et du coup, aux élections d'après, il s'est fait pousser la moustache.
Bah, il avait carrément la barbe.
Oui, Lincoln, il avait une barbe, mais sans moustache, pour le coup.
Alors, du coup, il est tout à fait possible que ça soit Grant ou un autre, parce que je suis nul en histoire. Histoire américaine. Non, j'étais persuadé que c'était Lincoln, mais je dois vous dire
Roosevelt, il avait
Roosevelt avait une. Le premier Roosevelt avait une moustache.
Mais c'est Roosevelt.
Lincoln, il avait un. Oui, c'est ça, il avait le collier de barbe sans la moustache, pour le coup.
Ça doit être Roosevelt, alors. Je savais que c'était un des quelques iconiques, mais je me rappelais plus lequel. Merci.
Très bien. Mais oui, on a dit Zappa dans les moustaches charismatiques de la pop culture.
On n'a pas trop parlé de Frida Kahlo qui se dessinait avec une moustache aussi. Non, mais enfin, oui, mais c'était sa représentation. C'est elle qui se donnait cette représentation
officielle. Et le mono-sourcil aussi.
Elle jouait avec ça.
Ouais, elle surjouait parce qu'en vrai, elle n'était pas si velue que ça.
On peut le dire aussi,
mais
ça.
Non, mais c'est parce qu'elle a pris cher dans sa vie et qu'elle
jouait avec son
mono-sourcil.
Elle jouait avec son mono-sourcil pour le détourner.
Et la moustache, c'était le rajout.
Si elle fronçait vraiment bien le visage, ça faisait peut-être moustache.
Double moustache.
Double moustache.
Quand même y aller,
n'empêche que, alors aujourd'hui, c'est un symbole de masculinité, c'est vrai. Et puis, voire même, il y a le côté un peu étrange de la femme à barbe. Mais alors, déjà, d'une, rappelons.
Aujourd'hui, c'est que ça a toujours
été.
Eh ben non, justement.
Si. Juste, eh ben, je te jure que non. Fin du 19e siècle, en Iran, les femmes gardaient les poils de la moustache, celles qui étaient très brunes, gardaient les poils de la moustache et c'était au contraire un symbole de féminité et de beauté. Voilà.
Okay. Bah, juste le petit mot pour rappeler pour le Movember.
Oui,
pour
parce
ceux
qu'on
qui savent
en a pas
ce
parlé.
Que c'est quand même le mois, en fait. Bon, les gens, s'ils le veulent, portent la moustache, le mettent sur les réseaux sociaux et tout, mais l'idée, c'est de faire des dons pour tout ce qui est toute maladie reliée aux hommes, enfin plus particulièrement aux hommes, cancer de la prostate, des choses comme ça. Voilà.
Et messieurs, c'est le moment où on va voir son proctologue. Oui, à partir d'un certain âge, bah oui, on va tous y passer.
On est clairement dans les âges, si on n'y est pas déjà passé.
On va pas tarder pour certains.
Oh, il y en a qui sont déjà passés.
C'est quoi, c'est à quel âge
il a dû y aller plusieurs fois déjà.
35 et 40, tu peux commencer à.
Je vais tous les jours.
C'est pour ça que tu fais
le matin avant de se lever les dents.
C'est évidemment qu'on se lève pas le matin en se disant chouette, c'est génial. Je vais me faire introduire un doigt dans le cul, mais cette affaire, vraiment, ça peut sauver des vies.
C'est un petit truc un peu sérieux quand même, parce que c'est pour ça qu'on a choisi ce thème pour novembre, du coup, quand même.
Oui, bah expliquer comment ça fonctionne aussi, peut-être aussi.
C'est pas une obligation, mais l'idée, c'est que normalement, même à l'origine, je crois que tu te rases la moustache au 1er novembre, et en fait, tu vas sur un site, je n'ai plus le nom du site, mais vous trouverez
c'est
bien.
C'est le site
Movember. Et en fait, tous les jours, normalement, tu mets une photo de toi, enfin ton visage, ou en tout cas de ta moustache à ce niveau-là, qui pousse tous les mois. Et l'idée, c'est de la partager sur les réseaux sociaux pour que les gens aillent voir le truc et voient les dons, où on peut faire des dons pour ce genre de maladie.
Exactement,
etc. Après, si vous voulez juste faire la moustache, mais vous en parlez à côté, juste pour dire faites des dons à côté, c'est pas très grave non plus, vous n'êtes pas obligé de suivre le site à 100%, mais c'est l'idée de la base.
En tout cas. Quitte à parler de Movember et en faire un truc drôle, sachez que derrière, quand même, c'est quelque chose de sérieux. Quoi.
Et bien sur ce, messieurs.
Mais une belle moustache, ça fait toujours plaisir, par contre.
Oui, oui.
Moustache, ça fait toujours plaisir. À part Abéa, Morgane, Claire. T'es à Jeanne aussi, je sais pas.
Ah, Jeanne, non, ça lui va bien. Ouais. Ça lui va.
Bah, c'est vrai qu'elle est très belle avec sa moustache.
Non. Pauline a dit non.
Et Pauline a dit non.
Pauline a dit non à la moustache.
Ouais. Et bah, dans ce cas, on va pouvoir basculer sur les recommandations. Si vous en avez, messieurs.
Allez.
Bah, moi, j'en ai une. Bah, j'en ai deux, mais en fait.
Attends, on va organiser les choses. On va passer dans le sens horaire.
Ah bah non, mais moi je suis
parti. Je sens que Pépé était pas prêt, donc je vais commencer par Pépé.
C'est vrai que j'étais pas totalement prêt. Et
tu te retrouves avec un mec.
Bah, j'ai fait exprès.
J'ai terminé un jeu vidéo qui était assez cool dernièrement. Ça s'appelle Chicory. C'est un tout petit jeu où en fait on est dans un monde qui a perdu toutes ses couleurs et on doit manier un pinceau pour colorier un petit peu tous les écrans. C'est un peu des écrans à la Zelda, on passe d'un écran à l'autre, on est un tout petit bonhomme. Et voilà, on fait du coloriage et autour de ça t'as toute une histoire qui tourne autour du thème de la dépression en fait. T'as le grand peintre qui a perdu son pinceau, qui déprime. Et c'est une belle histoire, c'est joli, ça pousse à la créativité. Et voilà, c'était pas très long, c'était un petit jeu que j'ai adoré faire. Je vous le conseille à tous, il est disponible depuis ce mois-ci sur le PS Plus et sûrement ailleurs. Allez-y.
Voilà. Donc Pépé a passé trop de temps à déprimer, à colorier la patte patrouille.
Non, ça va, c'est pas déprimant. Ça parle de la dépression, mais c'est pas déprimant. Au contraire, en général, quand ça parle de dépression,
ça a tendance à essayer de te remonter.
Ouais.
Moïse, est-ce que tu vas parler du film que t'as vu il y a pas longtemps au cinéma?
Je sais pas duquel tu parles. Il y en a deux pour moi, donc.
Celui d'Olivia Wilde.
Ah non, bah vas-y.
Ok, donc moi j'ai vu Don't Worry Darling. Don't Worry, oui, c'est ça. Oui, parce que...
Don't Worry, Darling.
Qui est un super film donc, d'Olivia Wilde avec Florence Pugh, Chris Pine, Harry Styles et bien d'autres. Thriller psychologique, super bon. On revient un peu sur le côté, on attend la fin pour connaître le mystère. Toujours, encore une fois. Très très bon film, tous les acteurs jouent très bien. On est dans une époque années 70 où tout le monde. C'est vraiment la belle vie très caricaturale des années 70 américaines. Les femmes sont. Gèrent la maison. Tous les hommes partent à la même minute parce qu'ils travaillent tous au même endroit pour le projet d'un mec qui est joué par Chris Pine,
qui est un gourou, hein, qui est clairement un gourou,
on le comprend, mais c'est pour le projet, les femmes ne savent pas ce que c'est. Et c'est tout ce qu'on sait au début. Et après, voilà, toute l'histoire continue là-dessus. Et franchement, c'est un très très bon film.
Ouais, apparemment, elle sait vraiment tenir la caméra et diriger.
Oui,
clairement,
oui.
Olivia. Clairement, c'est de la réal impeccable.
Et pour le coup, alors Florence Pugh, je ne me rappelle plus dans quoi je l'avais vu, mais vraiment très très forte, celle qui tient le film pour le coup, parce que c'est elle qui est toujours présente. C'est elle qu'on suit vraiment. Et on voit sa vie qui se passe autour d'elle, donc elle est vraiment toujours présente. Mais Harry Styles, les autres, Olivia Wilde joue aussi dedans et tout. Enfin, tous sont vraiment très très bons.
Pour moi, ce qui a fait la différence dans ce film, c'est vraiment la réalisation derrière. Enfin, y a tout un jeu sur les miroirs, je vais pas en dire plus, mais y a tout un jeu sur un miroir qui fait que t'es toujours un petit peu dans l'expectative, tu sais pas trop où t'es.
C'est super bien.
C'est très bien construit. Donc très bon film, faut pas hésiter à aller le voir.
Et en deux secondes, j'ai été voir le ciné-concert au piano symphonie de One Piece avant-hier soir. Il y a ça existe pour Dragon Ball, ça existe pour Naruto, ça existe pour plein de trucs. Bientôt, il y aura aussi pour tous les sons de Final Fantasy. Allez-y à fond, c'est super cool ce genre de truc.
Sympa, ça.
Pour ceux qui aiment le sujet, en tout cas, c'est vraiment super bien.
Alors, faut habiter, malheureusement, pour ça, ce qui est chiant, c'est qu'il faut habiter pas loin d'une grande ville quand même.
Ouais, parce que là, c'était à Nantes, mais il y en a à Rennes, il y en a un peu partout, bien sûr. Okay. Mais, ouais.
Donc, se tenir informé de tout ça.
Ouais, il y en a un peu partout.
Si vous êtes dans un désert médical, c'est sûr que vous n'aurez pas le cinoche à côté.
C'est
quoi.
Ça. Mais c'est généralement pas ta principale préoccupation quand t'es dans un désert.
Ça dépend, tu peux avoir envie d'aller au cinoche quand même.
En tout cas, c'est sûr, oui.
L'air de rien, non,
ça fait partie des trucs qui te manquent, c'est certain. Moi, je veux pas dire
que c'est même parti sur le territoire.
Et même côté Nantes, le ciné-concert de Naruto, par exemple, il est au Zénith parce que c'est avec vraiment un orchestre. Et celui que j'ai vu, c'était à la Cité des Congrès de la Fleurier de Carquefou. Donc, il faut quand même se bouger le cul pour y aller. Même de Nantes. C'est pas à côté, même si ça veut dire Carquefou, c'est grand. Hein. T'es pas... Et du coup, c'est vraiment juste piano, donc c'était petite ambiance sympa avec les images en fond, c'était super, franchement, c'était cool.
Intimiste.
Cool. Plutôt.
Recommande-nous des choses, Angelo.
Allez, Angelo.
Ouais. Bah, y a un film que j'aimerais bien voir avec vous, que j'ai vu hier soir, que je voulais voir depuis très longtemps, un film de 92, donc la même année que Superman Land 2, qui s'appelle, alors en français, c'est Les hommes blancs ne savent pas sauter. Est-ce que vous connaissez ce film?
C'est un type de James Dino, ça.
C'est un film avec Wesley Snipes et Woody Harrelson. Alors, à l'époque, ils sont très jeunes. Et, alors, c'est un film de Rob Sheldon, je sais plus, dans lequel, en fait, deux mecs qui sont extrêmement doués au basket commencent à arnaquer tout le monde autour d'eux en faisant des paris truqués. Et c'est un incroyable. On dirait que c'est Spike Lee qui a réalisé le film.
Bah, c'est ce que j'ai dit.
Ça transpire les années 80-90 dans l'esthétisme. Mais l'esthétisme cool des années 80-90. La bande son est incroyable, bien réalisé. En fait, c'est un film où tu te sens bien. C'est un feel good movie à voir avec les copains. Et du coup, je me dis, putain, ça et Moonwalker avec vous, ça sera un bon moment. Voilà.
T'as plus qu'à nous inviter
Quand vous voulez.
Allez.
En location sur Apple TV. Voilà. Enfin, si vous voulez savoir. Et sur Amazon peut-être. Voilà.
Bon, si c'est à mon tour, je vais enfoncer une porte ouverte. Pardon.
Alien.
Il y a la deuxième.
Gremlins. Vas-y, c'est super large.
L'armée est douce.
La deuxième, la partie 2. La deuxième partie.
Le parrain, alors.
Harry Potter, faut que t'aimes pas Harry Potter.
En même temps, je le fais tellement souvent que je peux pas me permettre de me plaindre.
Tu vas jamais pouvoir faire ta reco, mec.
La deuxième partie de Ne montre jamais ça à personne est sortie.
J'ai encore vu.
Vous jure que même quand on n'est pas fan d'Orelsan ou de sa musique, c'est un documentaire extraordinaire.
Moi, j'ai adoré la première partie, mais je m'attendais pas à une suite. Quoi, en fait.
Tu vas voir la deuxième partie, il y a une logique. Alors, je vais spoiler un tout petit peu. Dans la première, en fait, la deuxième partie, c'est ce que voulait faire. Clément Contentin, donc le frère de Aurélien Contentin, qu'on connaît mieux sous le sobriquet d'Orelsan. C'est ce qu'il voulait faire au départ. Mais en fait, il s'est rendu compte, c'est-à-dire rentrer dans la technique et comment ils écrivent les morceaux et comment cette équipe de mecs-là travaille. Sauf qu'il s'est rendu compte qu'expliquer tout ça en première partie, alors qu'on connaissait pas les mecs, ça allait perdre la moitié du public, ça intéresserait que les gros aficionados. Et c'est pour ça qu'on met le droit à une première partie où ils nous présentent d'abord un peu toute la team et comment ils se sont rencontrés, comment ils sont devenus potes et comment ils en sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Et donc cette seconde partie, plus technique, a en plus ce truc un peu ouf de tomber en plein début du confinement. Il commence à tourner vraiment tout début du confinement et du coup tu suis un peu le processus d'écriture d'Orelsan et de ses potes, mais à distance. Et ouais, c'est trop cool, j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça, ce que j'ai dit suffit pour aller voir le
en
truc.
En plus, ils ont que ça a branlé pendant le confinement.
Alors ouais, et pourtant. On verra que c'est pas parce que t'as que ça à branler, un papier, un stylo et 4 albums ou 5 albums de ouf derrière toi que t'es capable. C'est incroyable.
Alors, c'est pas ce que je dis.
Non, bien sûr, je sais que c'est pas ce que tu disais.
Ça te prive pas du syndrome de la page.
C'est que t'as beau avoir le temps.
Mais que du coup, ça libère du temps.
Ah bah oui,
c'est
sûr.
Parce que t'as pas tourné.
Ouais, exactement.
Mais évidemment, tout ce qui est syndrome de la page blanche, j'imagine bien qu'il intervient.
Alors, lui le dit, de toute façon, ça tombe bien. Il dit le premier confinement, c'est moi le plus chanceux du monde. J'avais aucun tournage de prévu, aucune tournée de prévu. Parce qu'il commençait à jouer un petit peu au cinéma à cette époque-ci.
Oui.
Et il dit coup de bol, moi j'avais rien. J'ai rien eu à décaler, rien eu à. Voilà.
Tant mieux.
Bon, par contre, tout se télescope plus tard, parce que tous ceux qui ont décalé, ils tombent sur ces dates à lui. Ouais. Bref, vous verrez tout ça dans la série. Mais puis, j'ai vu The Batman la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de vous en parler. Il est sur Canal, donc je vous le dis, allez-y, foncez, parce que si, comme moi, vous êtes amateur d'un Batman détective, ce qu'il était à l'origine, on est dans un Batman détective. Il y a du bon et du moins bon dans le film, avec du recul, parce que je vous disais le soir-là, j'étais dithyrambique, je vous disais c'est génial. Avec du recul, il y a 2-3 trucs qui vont moins bien, c'est vrai. Quoi qu'il arrive, ça reste un très bon film de Batman.
2h30
2h50. Si t'enlèves quelques longueurs et quelques trucs un peu débiles dans le film, et le pire Alfred qu'on ait jamais vu au cinéma, et ben là, t'as un très bon Batman.
Et d'ailleurs, juste pour revenir sur le Orelsan, vous savez pourquoi Orelsan s'appelle Orelsan?
Oui.
Parce que toi, t'écoutes le podcast. Ou un bon moment, je sais plus lequel, c'est
Aurélien,
un podcast.
C'est Aurélien.
Non, parce qu'en fait, il voulait s'appeler Aurel. Il a été à la SACEM.
C'est le truc.
Il va à la SACEM, il fait ouais, je voudrais m'appeler Aurel. Il fait ah bah non, déjà, c'est déjà posé. Il fait bon, bah. Orelsan. Et en fait, il a remarqué que c'était lui qui l'avait posé plusieurs années avant.
Il a retrouvé des papiers quelques années plus tard.
En fait, il avait posé le truc qui l'a bloqué pour s'appeler Orelsan.
Il est tellement perché que le gars avait déjà déposé son nom, en fait.
Classe.
Ouais. Mais il est vraiment genre, pour ceux qui ont vu déjà la première partie, le mec, il est trop gentil.
Ah oui,
quoi.
Il est gentil, genre.
C'est génial.
Et moi, juste, alors, du coup, est-ce que t'as un petit truc à...
Ouais, bah du coup j'en aurais plusieurs en fait. Je pensais à Everything Everywhere All at Once. Alors je le prononce très mal parce que j'ai un accent
Everything
pourri.
Everywhere
All at Once.
All at Once.
Qui est un film américano-coréen, si je dis pas de conneries.
Je crois que c'est américain en vrai. Hein.
Ouais,
pas sûr,
non,
mais. En tout cas, la production est américaine après.
Dans la réelle, je crois qu'il y a des Coréens qui sont pas mal impliqués.
En termes de production, ouais.
Et du coup, bah, c'est plus ou moins un film d'action SF. Mais j'ai jamais vu ce truc-là avant.
Enfin, en action gros, SF un peu comique.
Ouais, en plus, c'est un peu comique, mais le comique te sort pas de l'intrigue en fait. Quoi. Et c'est un truc qui m'a foutu une claque dans la gueule, vraiment. Il est incroyable. Pour la faire courte, en gros, c'est une meuf, enfin une Coréenne qui a émigré aux États-Unis avec son mari et qui ont une laverie et qui vont se rendre compte après quelques temps que du coup il y a des réalités alternatives et que ces réalités-là commencent à influer sur leur vie, quoi. Pour la faire simple. Et du coup, ça se barre complètement en couille. Il y a des trucs incroyables dans ce film-là. Donc, il faut aller le voir. Il est ouf. C'est une réale qui est incroyable. C'est un scénario qui est complètement barré, que j'ai jamais vu avant.
Juste pour le petit truc, pour faire comprendre le délire, c'est qu'en fait, si ton père, toi, tu existes dans un multiversus et tout machin. Et en fait, ils ont créé dans un monde, enfin dans un autre versus, un moyen de ramener une version de toi à ta place. Donc une version peut-être qui a appris le karaté, une version qui sait faire du yoga, j'en sais rien. Et le seul truc, pour y arriver, il faut faire un truc débile. C'est vraiment, c'est genre manger une mouche, et boum, là du coup tu peux... Et du coup ça amène beaucoup de scènes très drôles. Voilà, c'est juste ça.
C'est pour pouvoir bénéficier des capacités d'un de tes alter ego dans le multivers, il faut que tu fasses un truc complètement con, donc c'est des mecs, des opérateurs qui vont te dire « Ah, il faut que tu fasses ça, machin !» Du coup, la meuf, elle va volontairement foncer dans un mur, la tête devant, elle se défonce le crâne, mais derrière, elle est une experte en kung-fu et tout.
Ouais, c'est ça.
Ça n'a aucun sens.
C'est absurde. On est plutôt sur une comédie, alors
En
fait, c'est une comédie, forcément. Mais derrière, en même temps, c'est très beau dans le social. C'est un beau mix.
En gros, pour moi, c'est un film d'action et d'aventure dans lequel on a apporté de l'absurde de façon suffisamment subtile pour que ça pourrisse pas le propos, quoi.
Exactement.
Et ça, ça fonctionne ultra bien.
Bah, du coup, ça fait coréen dit comme ça.
Bah oui.
Bah, bah, moi, ça me fait penser à Ken Loach quand tu dis ça comme ça. Côté action en moins, mais.
Il faut vraiment aller le voir. Il est incroyable. Et ma deuxième reco, vite fait, bah, c'est les Invincibles. Donc c'est un autre des comics de Robert Kirkman.
Ah, oui, la série ou le comics?
Plutôt le comics, mais la série est très bien aussi. Donc du coup, c'est par Robert Kirkman qui a écrit Walking Dead, mais qui s'est focalisé sur les super-héros, sur un truc ultra gore, ultra familial aussi, où du coup, t'as un super-héros un peu en construction qui va commencer à essayer de gagner un petit peu.
Qui est le fils du mec invincible.
Voilà, qui est le fils du super-héros absolu, mais lui, il est en train d'essayer de gagner ses armes et tout le bordel, et puis ça fait un truc...
Ça surfe un peu sur le succès de The Boys ?
Non, parce que c'était en parallèle.
Non, pas du tout. Ah, non, c'est, okay. Non, c'est un peu un hasard, parce que du coup, Garth Ennis a un peu sorti le truc en même temps que Kirkman.
Ok, super.
Donc, c'est pas du tout relié. Okay. Mais,
non, c'est parce que tu disais super-héros et côté un peu gore, et j'imagine. Enfin, je connaissais ça que dans The Boys.
En plus, ce qui est marrant, c'est que c'est Amazon Prime en termes de série qui le sort aussi, donc ils ont les deux.
Mais du coup, oui, c'est dans le même registre, un peu révérencieux envers les super-héros. C'est pas le même genre de truc. The Boys, vraiment, on va en prendre plein la tronche.
Et c'est de l'anime aussi.
Là-dessus, on va plus prendre un truc un peu plus psychologique.
D'accord.
Et vraiment, très bonne série.
Je crois que mon colocataire regarde ça.
Pour la série aussi, c'est animé, ce n'est pas des personnages réels pour le coup. Aussi.
Ok,
pour la différence.
Bien. Très bien.
Donc voilà, merci. C'est mes deux petits trocos.
Ça a l'air cool aussi, ça.
Mmh. Ouais, pas mal de trucs.
Ouais. Bien, si on allait se raser la moustache.
Allez, ciao, ciao.
Se la faire pousser déjà. Rasons-les-nous les uns les autres.
Merci beaucoup, messieurs.
Bisous à
c'est
tous.
C'est ce qu'il y a de plus.
Oh, non, c'est pas ça que je voulais chanter en plus.
Non, on aurait dû chanter.
Oh, bah, le générique de film.
Houston, on a un problème. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin.
Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq.
J'aime me battre.
Je l'écoute, mon cher Michel Bouchetat.
J'ai vu un homme s'enfuir.
Il était comment?
Il était de dos.
On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier.
Hasta la vista, baby.